puissance et cette énergie peuvent-elles venir ?
Elles viennent du Harukiya Café, le full manga podcast où l'on parle manga, manhwa, global manga, en marge de l'actualité, ou presque. Nous sommes en 2019 et je suis Oshosan, en live du Kensington Café à Nancy. Et pour m'accompagner ce mois-ci, comme vous le voyez, il y a notre ami Nico, a.k.a. Atuman. Comment vas-tu aujourd'hui ?
Eh bien, toujours autant d'énergie. Là, je viens de sauver 2 veuves et 3 orphelins. Je viens d'arrêter un camion en folie qui a failli s'écraser dans la ville. Donc, tout va bien. L'habitude, ouais, ça va. Quelque chose de classique.
En ce genre de grève, Nancy est safe.
Et voilà, un jour de grève, vous inquiétez pas, je veille sur vous. Tout va bien. Nancy, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles.
Merci Nico, heureusement que tu es là pour nous. Et nous avons Baptiste, le Tom Selleck réincarné.
Ah oui, comme d'habitude.
Oui, mais c'est ça.
Je compte les jours jusque Noël, ça devient très long, très difficile d'attendre.
Ouais.
Comme un enfant, tous les matins avec mon petit calendrier de l'Avent Kinder.
C'est beau. Toujours très, très classe.
Bah oui.
Toujours très classe. Et c'est puis, très on a, important. Attendez, regardez, on a une surprise pour vous. On a Inès qui nous rend visite.
Bonjour.
Comment ça va Inès ?
Eh bien ça va, du coup je ne peux plus assister au podcast parce que j'ai cours et qu'en master on ne choisit plus son emploi du temps parce que les 3 autres années je pouvais choisir et me libérer le jeudi mais ce n'est plus le cas. Mais bon, vu qu'il y a la grève, je peux être là mais...
Ça a des biens la grève hein ?
À 16h je reprends les cours, donc okay. Je ne resterai pas longtemps.
C'est juste un petit coucou, ça marche. Voilà, elle reprend la caméra, regardez-moi, c'est un plan séquence, c'est fantastique. Au programme de cet épisode 30 d'Harukiya, le 30e les amis, 30e, et oui. Nous commencerons par le pouvoir des dessins animés de Elsa Brands, un global manga, one shot, chez Kana à la collection Kiko. Après on montrera. Ensuite ce sera au tour de... Attendez, mais qui est-ce qui a rangé ces mangas de cette façon ? Ce sera au tour de Urusei Yatsura, Perfect Color Edition de Rumiko Takahashi, Shonen un tome en cours chez Glénat. Et puis ce sera à Samurai 8. Oui, Samurai 8. Mais oui, mais de qui c'est ce manga inconnu ? Je dirais que c'est de Masashi Kishimoto et de Akira Okube. 2 tomes chez... Ouais, c'est magnifique. Ils ont fait du super boulot. Ouais, magnifique. Donc en 2 tomes chez Kana. Puis nous partirons un peu plus loin dans les années 90 avec du Tsukasa Ojo, la mélodie de Jenny. Oui, ce ne sera pas City Hunter, ce ne sera pas Angel Art. Shonen aussi, oui, c'est classé Shonen. One Shot chez Kiun. Et nous terminerons, il n'y a que des one-shots quasiment aujourd'hui, mais c'est bien, par Old West de Chaiki Maeda, c'est un premier manga, c'est un seinen, one-shot chez Omake Books, notre premier Omake Books. Hein, c'est bien, ouais, c'est bien ça. Et comme vous le savez, je vais répéter encore pendant ce podcast-là, Inès, tu peux faire un focus sur mon vilain visage. Non, calme-toi, je n'aime pas les gros plans. Les lectures en cours et les Totally Crazy sont disponibles sur notre IGTV et non plus dans le podcast audio. Ça, on vous l'avait déjà dit, donc on le répète encore. Donc vous pouvez les voir sur IGTV. Autre chose très importante, on vous avait promis, Nico surtout, le mois dernier, l'interview de Eldo Yoshimizu, l'auteur de Ryoko. Et c'est chose faite, donc vous pouvez retrouver, si vous êtes abonné au podcast, vous l'avez déjà sûrement écouté. Autrement, vous pouvez le retrouver en version aussi vidéo sur notre YouTube, Harukiya, et la version audio plus longue pour les japanophiles, hein, qui aiment bien la langue japonaise. Du coup, parce que ce qu'il y a de bien, ce que j'ai fait dans la version audio, c'est que j'ai laissé à la fois l'auteur japonais, là, moi je pose la question en français, la traduction en japonais de la question, la réponse en japonais, la traduction de Miyako Slocum, hein, qui a traduit notamment Samurai 8, hein, une très grande traductrice dont on espère faire aussi un jour l'interview de son travail de traductrice. Et vous avez après, voilà, ici, ainsi de suite. Donc on a gardé, si vous voulez, le japonais à l'audio plus que dans la version vidéo. Donc n'hésitez pas à aller regarder et écouter les deux. Nico, tu voulais dire ?
Oui, moi je voudrais remercier surtout Ocho Productions parce qu'ils sont venus à la parenthèse pour filmer pendant la dédicace de l'auteur. Et il s'est même déplacé pour la présentation à l'école de d'architecture.
Architecture de Nancy, ouais, c'est ça.
Où il y avait la rencontre et tu as filmé et tu as fait là-dessus. Donc vraiment, je voudrais te remercier parce qu'il a fait comme tout ce boulot il l'a fait vraiment sur son temps libre, c'est sur ce qu'il a fait. Et vraiment, encore une fois, merci parce que c'est vraiment un très très bon boulot et du gros boulot. Parce que c'est pas juste un truc où tu filmes, tu mets et tu poses. Non, il y a tout un montage, une remise, un travail et c'est vraiment.
Et le sous-titrage.
Voilà,
le
sous-titrage. Merci, j'en fais aussi, je pleure, je te crois vraiment là-dessus. Voilà, donc vraiment gros boulot et merci pour Ocho Prod, vraiment c'est. Et un grand, grand merci à toi.
Merci Nico. Eh bien, écoutez, on va passer tout de suite au débat Dis-moi. Et nous commençons par le pouvoir des dessins animés de Elsa Brands. Depuis le temps qu'on voulait faire du Elsa Brands. Nico à chaque fois me dit il faut qu'on fasse du Elsa Brands, il faut qu'on fasse Save Me Pity. Et bien voilà, c'est chose faite, Nico, avec ce Global Manga, sous forme plutôt de comic strip, ça ressemble, moi je trouve que ça ressemble beaucoup à ça, One Shot chez Kana, collection Kiko. Alors, ça va être très dur à résumer, très facile, c'est un récit autobiographique de l'auteur de Save Me Pity, qui en fait va retracer l'histoire de l'arrivée du manga, via l'animation et via surtout le club Dorothée. Et ça va être quoi ? Ça va être une suite de petites histoires que Elsa Brandt nous raconte. Comment elle a eu sa première télé en noir et blanc, comment elle faisait pour regarder les dessins animés alors que ses parents étaient des adeptes de la sortie. Voilà, faut toujours s'occuper dehors, pas à la maison, la télé c'est mal. Comment elle a réussi malgré tout à regarder ses dessins animés. L'arrivée du magnétoscope qui lui a sauvé la vie, hein, tout se passait par là. Comment j'aurais pu voir le dernier épisode de Juliette, je t'aime autrement. Voilà, merci à cette invention, le magnétoscope. Et ainsi de suite, donc on va jusqu'à voilà. Vous verrez bien, je ne vais pas vous spoiler la fin si je puis dire. En tout cas, ce qui est important dans ce projet, et Baptiste ne le savait pas, c'est que c'est en fait, ça a été commandé par les Japonais, par une éditrice japonaise, qui voulait un petit peu expliquer aux Japonais, sous forme de gag, comment le manga et comment l'animation japonaise est devenue aussi populaire en France. Donc c'est en gros ce qu'elle a fait. Donc elle explique un petit peu dans une interview intéressante sur la chaîne Kana de YouTube. Elle explique un petit peu comment ça se passait avec des littérations entre, voilà, elle dessinait, il fallait que ça traduit en japonais, que ce soit envoyé au japonais, que ce soit validé au japonais, que ça revienne. Donc normalement, ce qui est censé prendre entre 6 et 8 mois, d'après elle, a pris quasiment le double. Voilà, ça lui a pris énormément de temps à faire ça. Voilà. Baptiste, avale ton cookies et dis-nous ce que t'en as pensé. Toi en fait, qui n'a pas vécu en fait ce qu'elle raconte. Comment t'as déjà entendu l'histoire plein de fois,
oui,
parce que
voilà.
La nostalgie fait qu'on entend parler tout le temps du club, voilà, Dorothée. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ?
Justement, comme tu le dis, c'est ça le problème que j'ai eu avec l'intrigue entre guillemets de ce manga, c'est que c'est une histoire que j'ai déjà entendue plein de fois par des personnes justement qui ont vécu, qui ont grandi les années 80-90. Donc du coup, j'avais l'impression de lire ce que j'ai déjà entendu. Et c'est toujours fait de la même manière.
C'est
vraiment.
Vrai. Je suis d'accord. Là, je ne peux pas dire le contraire. Ouais.
Et donc, du coup, pour moi qui ne l'ai pas vécu, j'ai moins le côté nostalgique. Et donc, du coup, j'ai vraiment une image formatée. Et là, du coup, ça ne m'a pas du tout surpris. La partie où elle commence à parler de comment elle commence à créer des mangas, par contre, là, j'ai beaucoup apprécié.
Donc, c'est bien la deuxième partie. Au moins la deuxième partie.
Oui, c'est quasiment troisième tiers.
Ouais, voilà. Ouais.
Donc voilà, tout le début, j'avais l'impression d'avoir déjà vu tout ça et ça m'a un peu gêné, ça m'a pas intéressé plus que ça, mais le fait de maintenant de savoir que c'est une œuvre commandée par le Japon,
ouais.
Je comprends le propos de la chose, je comprends l'intérêt qu'il y a à expliquer tout ça. Moi, en tant que Français, jeune Français, qui n'a pas connu le club Dorothée, ça m'a pas plus parlé que ça, honnêtement.
D'accord. Mais c'est marrant, hein. C'est exactement en fait la critique que j'en ferais. C'est-à-dire que, alors on sait très bien que bah, voilà, les gens comme moi ou comme Nico, voilà, 30, 40 ans, on est en plein dans cette vague de nostalgie, hein, allo Stranger Things. Et en fait, on nous met un petit peu tout à la sauce années 80-90 pour nous faire acheter. C'est vrai que de prime abord, on pourrait penser ça, sauf que je pense, voilà, bah, Nico en parlera plus, Elsa Brandt a une vraie démarche sincère, hein, la 275,
oui,
hein, donc par
même, puis ça se sent de toute façon que c'est fait,
voilà,
sincèrement.
Après, ce qui est sûr, c'est que bah, voilà, on a l'impression chacun a l'impression de lire sa propre histoire au final. C'est ça. Sauf, et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on sait pertinemment, et Nico le sait parce qu'il a aussi travaillé dans un magasin de jeux vidéo, il y a toujours une période, et moi je suis en plein dedans, hein, où tu arrives vers la troisième, où tu commences à arrêter un peu. Moi maintenant peut-être, je sais pas, vous pouvez peut-être nous dire, la geekitude en fait, où tu vas partir vers, tu vas écouter plus de musique, ça va être les filles, ça va être le sport, ou les garçons, enfin bref, machin, il y a d'autres choses qui vont nous tarabuster et d'autres centres d'intérêt qui vont en fait nous détourner à la fois du manga, à la fois du jeu vidéo. Et là, apparemment le phénomène est le même au Japon, hein, quand tu entends des Japonais en parler, c'est un petit peu la même chose qui se passe. Ils ont tous eu du manga jusqu'au lycée, et après c'est terminé. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est restée dedans. Elle est restée dedans. Et jusqu'à maintenant, quand tu l'entends parler, c'est super marrant parce qu'elle a la notre âge, près de 40 ans. Enfin, ouais, c'est ça. Et elle parle encore un peu comme une enfant. Comme si elle était encore à cette époque-là. Et
ça c'est se vrai ressent que moi, dans son trait d'ailleurs, dans la manière dont elle se représente.
Tout à fait, c'est tout à fait, c'est ça. Et en fait, ce qui moi m'a intéressé, c'est voir comment c'était vécu un petit peu cette geekitude, l'effet que tu restes dans cette geekitude, là où tu vois bah, tous les gens, bah, comme moi, qui ont quitté un petit peu ce truc-là pour partir vers notre émancipation, vers une espèce d'âge adulte, on va dire ça comme ça, ou alors on rentrait dans le moule qu'on essaie de dans lequel on essaie de nous rentrer. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé ce point-là extrêmement, extrêmement intéressant, d'autant plus qu'elle se représente en. Et voilà, on n'est pas encore là, mais en Lamu, par moment où elle foutrait des coups d'électricité un petit peu à tout le monde, super pouvoir qu'elle aimerait avoir. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai trouvé ce point-là en tout cas extrêmement, extrêmement intéressant. D'autres points de vue. Est-ce que vous avez le même ressenti, notamment par rapport au point où je dis, vers la troisième à peu près, ouais, généralement
Au niveau de la génération, l'avantage qu'on a, j'ai envie de dire, c'est l'arrivée d'Internet, qui fait que c'est beaucoup moins marginalisé, je trouve, toutes ces cultures geeks. Ouais. Et il y a eu une explosion autour de, je dirais, 2013-2014, avec tout ce qui est arrivé de Game of Thrones, The Walking Dead, les séries en fait, qui ont légitimisé la culture geek auprès des... auprès des 30-40-naires, voilà. Ouais. Et donc du coup, ça fait que oui, j'ai quand même eu une période où c'était un peu moins fort, mais je suis quand même toujours resté un peu, si c'était pas le manga, je m'y suis mis assez tard, je m'y suis mis quand je rentrais au lycée, mais le jeu vidéo, je m'y suis jamais vraiment détaché parce qu'on avait tous... c'était légitimisé l'arrivée de YouTube aussi, les YouTubers gaming.
Il y a aussi une chose, c'est que en fait, c'est l'arrivée de la PlayStation. Avant l'arrivée de la PlayStation, les jeux vidéo, c'était Mario, c'était Zelda, donc ça restait quelque chose de faussement enfantin. En tout cas, le chara-design était enfantin. Et dès qu'il y a eu la PlayStation...
Sony, Microsoft, après, qui a suivi, on donne l'image adulte.
C'est pour ça.
Les publicités de la PlayStation 2 qui passaient à l'époque, ils débauchaient David Lynch pour faire des publicités.
Un peu la style Apple, tout à fait.
Ouais. Sega avait essayé un peu ça, je crois. L'image Nintendo, c'est pour les enfants, Sega, c'est pour les ados rebelles.
C'était la guerre à l'époque. Et toi, Inès, t'as un petit ressenti par rapport à ça?
Pour moi, je me suis mis au dessin animé japonais depuis que je suis toute petite, avec Dragon Ball Z par exemple.
C'est à cause de ton frère, il me semble, non?
Non,
c'était pas ça? Ah, je pensais.
Sûrement, d'accord. Oui. Mais surtout, mon père, il était aussi un gros fan de Dragon Ball Z en fait.
D'accord.
Encore aujourd'hui, bien sûr, il a regardé
Dragon
Ball.
C'est cool d'avoir un père qui aime Dragon Ball.
Il a regardé Dragon Ball Super.
Tu crois que mes enfants ils disent ça quand je suis pas là? Vas-y, écoutez ce qu'il m'a dit.
Et en fait, mon père et mon frère, ils achetaient les cassettes toujours.
D'accord.
Un mec.
Donc t'as baigné dedans. Ok.
Qui passait, je sais pas, tous les mardis, quelque chose comme ça. Ouais. Donc ils regardaient tous Dragon Ball Z. Et donc moi, naturellement, je m'y suis mis. Puis après, il y avait quand même d'autres dessins animés à l'époque, comme Doremi. Donc je suis toujours fan. Donc c'est vraiment une continuité où ça s'est jamais arrêté. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait City Hunter, du coup, Nicky Larson.
Ah, donc t'as quand même, parce que c'est très vieux, hein, c'est un des plus vieux, avec 4 sizes, c'est un des plus vieux, quoi.
Bah, il y avait toujours, dans les années 2000, il y avait toujours Nicky Larson, par exemple. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qu'on regardait en dessin animé? Il y avait Olivier
Tom. Captain Tsubasa, ouais.
Il y avait Chocolat et Vanilla aussi.
Oh, ça, c'est nouveau, ça, on n'a pas eu ça, nous.
Ah. Qu'est-ce qu'il y avait encore? En vrai. Moi, j'avais pas.
C'est l'Hormone ? Je crois sur la 5, ça va demander à Nico, il sait ça.
Ah, moi, j'avais. À l'époque, j'avais.
Ce qui vit avec l'Hormone.
À l'époque, j'avais que 4 chaînes. On avait TF1, France 2, France 3.
Mais t'avais une RTL 9. Mais t'avais une télé.
Oui, j'avais une télé.
Non, parce qu'Elsa Brandt, ce qui est marrant dans son truc, c'est qu'elle dit qu'ils étaient pauvres, c'est elle qui le dit. Elle n'avait pas de télé. Et à l'école, tout le monde parlait de télé. Elle n'en avait pas. Et à un moment donné, elle reçoit une télé et cette télé en noir et blanc. Une télé en noir et blanc, je trouve ça incroyable, et ça me rappelle, voilà, j'ai quelqu'un, je ne vais pas citer de nom, je connais autour de moi, pareil, qui, elle, avait une télévision, mais n'avait pas de magnétoscope, à tel point que quand il parlait dans la cour de récré, elle ne savait pas ce que c'était qu'un magnétoscope, tu vois. Donc effectivement, c'est vrai qu'on a tous tendance, on pense tous qu'on sait, voilà, bon maintenant, vous, c'était le lecteur DVD, on va dire, mais c'est vrai que, c'est marrant de voir ce...
Moi, j'avais aussi des cassettes. Donc après c'était à l'époque, je veux dire, les années 2000, tout le monde avait une télé maintenant. Enfin,
bien sûr.
C'était
bien sûr.
La télé cathodique Sony, la grise, je ne sais pas si vous voyez.
Ouais, la 16/9e,
Non, moi, c'était la Sony. Et puis, on avait les cassettes et tout. Puis, il y avait les jeux vidéo aussi à l'époque. Ouais. Après, je n'étais pas très jeux vidéo japonais, il me semble. Oh, c'était vraiment Xbox, toujours.
Ouais, mais ça, c'est... Ouais. C'est marrant, c'est non, mais c'est toute une génération, c'est vrai, hein, c'est pareil, j'ai des amis, des jeunes pareil qui.
Enfin, j'avais aussi la DS ouais. que j'ai reçue.
Tout le monde avait la DS, c'est normal.
À 7 ans, par exemple. Ouais. Et du coup, finalement, je me suis mis plus dans la culture japonaise avec ouais. les animés et mangas au collège, en fait, en 2011, je crois.
D'accord.
C'était vraiment, je regardais plein d'animés à cette époque. Et après, à partir du lycée où j'ai commencé à avoir de l'argent, j'ai commencé à acheter des mangas. Donc, okay. J'ai acheté par exemple Bunny Poon Poon.
Ok, 15 ans, 16 ans, Bunny Poon Poon. Ok, d'accord.
Ouais, bah, j'étais...
Après, vous comprenez pourquoi, hein, les... hein, vous vous souvenez, hein, c'est pas si loin les titres qu'elle nous proposait régulièrement.
Et donc, au lycée, bah, je me suis mis au manga. Ouais. Tout de suite, les mangas un peu underground, si on veut, ouais. vraiment.
One Piece, ouais, bien sûr. Ouais.
Bah, toi, t'étais un gros fan.
Ouais, bah, One Piece aussi.
Non, mais moi, j'ai pas suivi, mais je sais que l'arrivée de One Piece à la télé, le fait que ce soit une œuvre qui soit toujours pas finie aujourd'hui, ça a fidélisé un public mm-hmm. et qui a fait s'ouvrir au manga, justement, pas mal de jeunes de notre génération, je trouve.
Ouais, tout à fait.
Moi, je crois que mon premier animé, c'était Black Butler, qui était sur D17.
Oh, vache.
Ouais. C'était Black Butler. Et du coup, je pense que finalement, je vais quand même continuer à. J'ai pas eu de période creuse en fait finalement.
Non, c'est pour ça que je voulais c'est ça parce que bien ce que je pensais
d'accord. Je pense c'est comme aussi les jeux vidéo, je pense que j'y jouerai toute ma vie. Peut-être quoi. Les mangas, je vais peut-être ça pourrait être un peu s'abaisser ouais. mais je pense que non, finalement je pense pas et les jeux vidéo, je pense que ce sera toujours dans la continuité par exemple. Mmh. Donc voilà.
D'accord. Bon bah Nico, qu'est-ce que tu peux dire sur le repartons un petit peu en arrière, parle-nous de Elsa Brandt un petit peu, vas-y.
Alors déjà, moi je lui fais une déclaration d'amour parce que je l'aime, j'adore.
Elle est mariée.
Oui, et Guillaume aussi, je l'adore. Elsa, mais je l'aime du fond du cœur parce que j'ai eu la chance de la rencontrer avec Guillaume. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que j'avais fait venir Guillaume en dédicace, Guillaume Lapeyre, pour City Hall. Et il me contacte en me disant, écoute, est-ce que je pourrais venir avec ma femme, parce qu'elle est aussi auteure de illustratrice, dessinatrice, coloriste, et elle a fait des dessins dans un artbook spécial sur le Japon et autres. Et je me dis, bah écoute, venez, bien sûr, avec grand plaisir, venez, qu'elle vienne avec, ça me ferait plaisir. Et j'ai eu la chance de les avoir tous les deux. J'ai passé un des moments les plus extraordinaires avec des auteurs, c'était avec les deux. Ils sont tellement gentils, ils sont mignons, ils sont. Mais c'est vraiment incroyable. Et donc, le petit truc, c'est que. Il y a beaucoup, beaucoup de sincérité. Je ne dis pas que les autres ne sont pas sincères, mais de sincérité par rapport à sa vie qu'elle met dans les bouquins. Du point de vue où. Elsa, elle adore, par exemple, Rumiko Takahashi, elle adore Olympe et la petite Olympe et les dieux. C'est des bouquins qui ont des œuvres, des animés qui l'ont tellement marqué qu'aujourd'hui, c'est un truc. Elle te chante la générique intégralement comme ça, parce que ça lui vient de la petite Olympe et les dieux. Elle te raconte, te sort des petites phrases de trucs, mais c'est un mourir de rire. Elle a une joie dans son dessin, dans sa manière de faire. Donc c'est pour ça que Elsa et Guillaume, mais je les aime vraiment de tout mon cœur. Et si je peux leur faire de la publicité à en crever, je le ferai, parce que vraiment, ce sont des personnes, je dis pas que les autres n'en sont pas, parce que Renaud Lemaire, je l'ai appris à le connaître, il est adorable, il est vraiment extra. J'ai passé parmi les meilleures soirées que j'ai pu faire, c'est avec lui, donc c'est vraiment, il était incroyable. Et Sarah, donc j'ai rencontré beaucoup, mais j'admets que Elsa et Guillaume, il y a ce petit quelque chose qui est vraiment touchant auprès d'eux, et ils le méritent. Et quand j'ai lu le manga par les pouvoirs du dessin animé, moi je me suis revu quand j'étais gamin. Je me suis revu avec mon frère en train de regarder les dessins animés, en train de me dire dans les années 80 qu'est-ce que c'est que ça, sans savoir que c'était des dessins animés japonais parce qu'on ne le savait pas. Moi, parmi mes premiers souvenirs d'enfant, c'était des cassettes vidéo qu'on allait chercher avec ma mère dans des vidéoclubs où on les regardait parce qu'effectivement on avait un magnétoscope, on avait pu voir, et pourtant on était d'une famille extrêmement pauvre, mais on avait de la chance d'être, que ma mère était infirmière et elle avait infirmière, et donc elle a pu avoir des aides et des gens lui avaient donné un magnétoscope avec une télé, et donc ça a été moi la télé, ça a été ma nounou pendant toute ma jeunesse avec mon frère, c'était notre nounou. C'est pour ça que Club Dorothée, moi Dorothée c'était ma nounou, hein. Il y a pas 30 solutions. Toi aussi. Et donc forcément, en lisant ça, je me suis retrouvé dedans. Je me suis retrouvé de quand j'étais tout gamin, quand j'ai découvert justement les dessins animés, quand je me suis retrouvé à aimer cet univers qui s'ouvrait à moi sans savoir vraiment ce que c'était. Et moi, j'ai été élevé à Goldorak, Albator, le merveilleux cité d'or, les mystérieux portes de cité d'or, US-31 et compagnie. Et quand on dit, c'est des choses que j'avais adoré quand j'étais gamin. Et après, quand c'est arrivé pour TF1 par Club Dorothée avec Dragon Ball et tout ça, mais j'en ai pleuré de joie en voyant ces nouveaux dessins. Je ne savais pas ce que c'était, mais je trouvais ça tellement extraordinaire. Et aujourd'hui, je dis, si je suis derrière mon comptoir à vendre des livres, c'est grâce au Club Dorothée, à Dragon Ball et Chevalier du Zodiac, majoritairement, même si tous les autres sont dans mon cœur, ce sont ces deux séries-là qui ont fait que je suis là. Et Elsa, c'est ce qui est génial, c'est que on fait partie de cette génération où on est resté dedans sans jamais en sortir. Ça a été notre plaisir, comment je pourrais dire ça, charbon qui nous permet d'avancer, donc on met dans notre chaudière, qui fait que on brûle de désir pour ce manga, pour ces mangas qui nous poussent à continuer et à faire découvrir de nouvelles choses. Et en plus, ce qui était très drôle, c'est que quand j'ai rencontré Elsa, on parlait de BD et je lui disais, ouais, il y a des BD que j'avais adoré, parce qu'elle me disait qu'elle allait travailler sur de la BD, comme ça. Je lui disais, ouais, les parmi d'un que j'avais lu, c'était Magone, c'était machin. Et elle me fait, mais tu sais que c'est moi la colo qui a fait les trucs là. Je lui dis, non, c'est une blague. Elle allait travailler sur les BD que j'avais adoré et c'était elle qui les colorisait. Et je trouvais que la couleur était tellement. Voilà, elle apportait quelque chose. Elle avait une marque qui donnait cette marque de fabrique à ces BD que je trouvais extraordinaire. Et c'est elle qui les faisait. Mais je me suis dit, mais c'est génial, mais c'est grandiose. Donc j'étais fait pour les rencontrer et pour les aimer parce qu'ils font des œuvres incroyables. Et c'est vrai que par le pouvoir des aimés, ce qui est génial, c'est que tu la vois grandir. C'est comme on passe d'une petite fille qui découvre des trucs à quand elle avance et que ça lui apprend des choses. Et aujourd'hui, il y a énormément de choses qu'elle se sert, qu'elle a, qui lui est venue des mangas qui lui ont permis d'avancer sur beaucoup de choses dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui est génial. Et d'ailleurs, il y a plein de petits clins d'œil dans ce livre qui sont des private jokes, mais des private jokes pour ses amis et gens qui les connaissent. C'est ça qui est génial. C'est que vous ne pouvez pas le voir tout de suite parce que des trucs que vous ne connaissez pas. Mais à un moment, il y a une file d'attente. À un moment, il y a pour Same Pity, elle est là en train de faire des dédicaces. Et dans la file d'attente, il y a un personnage qui a fait un costume de cosplay du manga de son mari, Guillaume Lapère, et donc pour City Hall, et on le voit dedans, elle l'a faite. Et donc si tu ne le sais pas, tu ne sais pas qui est ce personnage, tu dis qu'est-ce que c'est que ça et pourquoi il y a. Et c'est ça qui est génial. Donc il y a plein de petits clins d'œil sur plein de petits trucs, et c'est extra. Et en même temps, elle te montre aussi l'univers aussi bien des dessins animés que l'univers éditorial. Et ça, c'était hyper intéressant. En France, parce que encore avec soit les idées reçues des éditeurs, de la manière de faire, parce que quand Elsa a sorti son manga, elle sortait dans un sens français, franco-belge. Ce que je trouvais un peu dommage, parce que déjà, il y avait Renaud Lemaire qui l'avait fait dans un autre sens, Guillaume qui était chez Ankama à l'époque, qui travaillait déjà dessus. Et d'ailleurs, petite anecdote, parce que là, elle nous a remercié toute l'équipe d'Atomanga, la parenthèse, pour ça, donc c'est pour ça que je peux en parler. Un jour, quand elle était venue en dédicace, on lui a parlé en disant, mais si un jour tu as un truc, il y a des auteurs, des éditeurs, on connaît bien, nous on aimerait bien que tu travailles pour eux. Et parce que t'es génial, tu fais un travail incroyable. Et ce qu'elle me disait, ouais, j'ai un projet, elle m'a montré en avant-première des petits trucs de son projet, je me suis dit, putain, mais c'est génial, ce que tu fais, c'est génial. Et donc nous, on l'a poussé à aller chez Kana, on a contacté Kana, on leur a dit, écoute, il y a une auteure, elle est extraordinaire, il faut que tu la vois, il faut que tu discutes avec elle, il faut que tu la rencontres. Et ils ont rencontré Elsa, ils l'ont vue et ils l'ont embauchée. Et elle a travaillé, elle a sorti Semi Pitié et tout ça. Et nous, mais on était tellement fiers, même si ce n'est pas nous qui l'avons fait en s'embaucher, c'est elle-même par ses propres talents. Mais si nous, on a pu avoir une petite pierre à l'édifice pour dire, nous, on était là pour faire bloc derrière elle, pour dire, elle est incroyable, on est libraire, on connaît le métier, on sait ce qu'il y a, donc allez-y, vous ne risquez rien, et bien ça l'a fait. Et en plus, l'éditeur l'a tellement aimé, qu'ils ont même fait ils ont fabriqué un temple pour Sammy Pity. Donc elle faisait des dédicaces derrière un temple avec un truc. Elle était habillée en Pity et compagnie. Mais c'est génial. Mais c'est pour ça que Guillaume comme Elsa sont vraiment incroyables. Et cette œuvre, moi, elle m'a beaucoup touché parce que je me suis retrouvé dedans. Je ne savais pas moi-même que c'était une œuvre qui était commandée par le Japon pour montrer. Moi, je l'ai vraiment vu comme comment expliquer aux gens comment nous, on l'a vécu. Comment nous, on a aimé le manga et comment on en est arrivé à l'aimer toujours autant aujourd'hui avec ça et tout ce que ça a appliqué derrière. Aussi bien pour des gens. Moi, je l'ai aussi vu par le côté où je suis libraire. Donc, je le vois quand je dois vendre des livres, quand je dois travailler avec des auteurs français, japonais, etc. Comment on travaille, tout ce que ça implique derrière. Nous, on est au courant de certaines choses. Donc, forcément, quand tu le vois dedans et tu apprends d'autres trucs, tu vois ce qu'il y a. Et c'est exactement ça. Et c'est ça qui est fort. Les gens ignorent souvent ce qui se passe derrière l'envers du décor. Et là-dedans, on apprend en s'amusant et en côté un peu détaché, ludique et autres, ce qui se passe. Et des fois même des choses dures, elle le montre avec humour, mais c'est toujours des choses dures. Tous ses refus, ce qu'elle a galéré pour avoir fait, sa jeunesse pauvre sur différents trucs, et tous ces petits détails, et c'est ça qui est génial. Donc c'est pour ça que cette œuvre, moi je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup.
Ok, ok. Pour parler un peu plus de l'œuvre en soi, bon, c'est pas mal de temps qu'on passe, parce qu'en fait on a parlé, c'était intéressant, ça montre qu'en fait quelque part le but est d'atteindre cette œuvre là, c'est de nous faire parler chacun un petit peu de notre vécu et comment voilà, on a grandi dans le manga et l'animation, comment est-ce qu'on l'a découvert et comment est-ce qu'on a grandi dedans. Moi il y a une petite chose qui me dérange, qui pourrait conforter un petit peu les gens qui pensent que les gens qui sont dans le manga et qui sont dans le jeu vidéo sont un peu des no-life. Tu vois. Parce qu'il y a cette scène, c'est pas que ça, mais il y a plein de scènes en fait dans ce manga où en fait quand elle est jeune, quand elle est au collège, lycée, je vais la citer, donc elle dit « Pendant toute ma scolarité, j'étais le souffre-douleur des autres enfants. Hey, Brands, la moche, Brands, elle ne sait pas parler, un chat, un, et à un moment donné, elle se retourne et elle fait avec son doigt comme ce que fait la mue, et comme si elle allait donner un coup d'électricité aux jeunes qui sont en train de se moquer d'elle. Et après, elle part en disant « Un jour, j'y arriverai. » Et on a en fait cette image. Ça conforte un peu les gens qui pensent que les lecteurs de manga et ceux qui sont geeks de façon plus large sont en fait un peu des no-life qui sont enfermés dans leur monde imaginaire et qui au final sont soit complètement déconnectés de la réalité, soit pas du tout en phase. Ça c'est un petit peu une chose qui me dérange un peu dans... Ah, peut-être qu'elle a vécu ça, il y en a beaucoup qui ont vécu ça. Hein, je pense, des fois je suis chez Nico, j'en vois pas mal, effectivement. Ils ont l'air de pouvoir rentrer dans ce moule-là, en tout cas. Puis on a, quand tu vas à la Japan Expo, mon fils d'ailleurs a eu cette même réflexion, il me dit, mais c'est que des no-life là-dedans. Je dis, mais non, faut pas dire ça, faut pas voir ça comme ça. Mais c'est vrai, il y a quelque part cette espèce de ressenti de culture refuge, en fait. Moi, c'est ce qui me dérange.
Alors, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je vais venir sur une autre vision. Moi, j'étais harcelé quand j'étais gamin, j'étais le souffre-douleur, j'ai vécu beaucoup de choses. Jusqu'au jour où j'en ai eu marre, où j'en ai collé dans la tronche du mec d'en face, bah, et d'un coup ça s'est un peu calmé, enfin ça a calmé non, parce que j'ai passé presque toute ma scolarité à me battre. Donc ne vous battez pas, allez voir des gens, parlez-en autour de vous, faites vraiment, vous faites harceler, vraiment laissez, parce que moi j'ai vraiment vécu des choses dures, et même en me frittant tous les jours contre les mecs, ça résout rien, au contraire ça amène d'autres problèmes à l'extérieur que vous avez accès à l'intérieur. Mais moi j'ai vécu la même chose, qu'il y a des moments où j'avais limite envie de sortir un kamehameha ou un hadoken ou un shoryuken ou des techniques comme ça sur les mecs, parce que j'en avais marre. Et oui, c'est nos références, parce que c'est des trucs sur quoi on voit des pouvoirs qu'on a envie d'avoir pour pouvoir les griller, je comprends cette façon de penser, parce que moi c'est trucs que j'ai vraiment vécu. Donc je peux comprendre. Après, la seule chose que je raconte et que je rappelle souvent, même avec humour aujourd'hui, mais nous, les années 80, on a servi de serpillère à tous les jeunes qui sont aujourd'hui qui disent aimer le manga. Je vous rappelle juste que quand nous, on était gamins, on nous sortait qu'on était trisomique parce qu'on lisait du manga, qu'on allait finir sous un pont, célibataire, sans travail, sans enfant.
Ah, no life, quoi.
Voilà, mais même pas qu'on n'aurait pas de vie, c'est même pas qu'on serait pas de vie en tant que no life, mais qu'on n'aurait pas de vie parce qu'on était des merdes et qu'on vivrait sous un pont et qu'on n'avait rien du tout et qu'on finirait pauvre et compagnie de ce qu'on peut imaginer. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire à ces gens-là, moi aujourd'hui, je suis là, je suis derrière mon comptoir, je vis bien, j'ai une vie, je suis marié, j'ai une maison, et je continue et je fais découvrir ça aux gens.
Mais il y en a combien des comme toi ?
Oui, mais justement, à quoi je veux dire ça ? Parce que moi, à travers ce que je vois, c'est que moi, j'ai réussi par rapport à ça. Certes, c'est une vision, mais ce n'est pas la vision que je voulais vous expliquer. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, qui je vois rentrer en magasin ? Des jeunes, tous les jeunes qui sont fans, mais je vois aussi leurs parents. La majorité de ces parents, ce sont des gens qui avaient mon âge et qui sont fans de manga aujourd'hui et qui, justement, ont tellement aimé les mangas quand ils étaient gamins qu'ils ont eu ça comme information et qu'aujourd'hui, ils ont une famille, se payent des trucs, ils se font plaisir et ils disent à leurs enfants, achète un manga, fais-toi plaisir, prends et ils le lisent ensemble. Même des fois, les parents lisent les mangas de leurs gamins. Et c'est ça qui est génial. C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure, Inès, de ton père qui adorait DBZ et qui aurait dû regarder. Et je trouve ça génial. Et ça c'est moi, si j'avais un enfant, ce qui n'arrivera jamais, mais si j'avais un enfant, je regarderais des mangas avec lui. Et je regarde. Moi, combien de parents me disent j'ai montré Goldorak, Albator à mes enfants. Donc ma gamine, elle est là et on a regardé. J'ai mes amis qui, maintenant, le gamin, quand c'est en grand, il prend des bouquins dans la collection, il lui montre, maintenant, il conserve plein de mangas. Et c'est génial. Et ça sert. C'est tous les no-life qu'on pouvait dire qui restaient geek et compagnie. qu'on peut avoir. Et je reviens juste sur une dernière chose pour Baptiste. Non, c'est pas la pop culture grâce à ce que tu disais sur certains trucs, à quel moment ça a commencé à naître la PlayStation. Parce que vraiment, si vous voulez savoir ce que les gens se disaient geek, non, ce que tu as rebondi à l'intérieur avec la PlayStation, c'était de dire que ce qui a dit que les gens étaient des geeks, aux gens que j'avais envie de mettre des tartes parce que j'entends ça geek, j'ai envie de dire non, t'es pas geek, t'es juste débile avec ton téléphone portable, c'est les gens qui jouent à Candy Crush et qui disent ah non, mais moi je suis un gros geek, je joue à Candy Crush.
Parce que être geek était devenu une mode.
Mais ça me saoulait d'entendre ça. Être geek n'était pas ça. En plus, geek, c'était c'est pour certains, c'était péjoratif. Et aujourd'hui, ça rentre dans le côté, c'est pas forcément péjoratif. C'est comme les otaku. Aujourd'hui, les gens disent, moi, je suis un gros otaku. Ouais, à une époque, tu disais, t'es un otaku, c'était, voilà, c'était le mec à lunettes qui est boutonneux, qui vivait chez lui, enfermé, regardait des mangas et on sait pas ce qu'il faisait dans sa chambre avec des paquets de mouchoirs. Donc voilà, donc des trucs comme ça. Et non, c'est pour ça que, certes, ça a changé de connotation, mais il faut voir comment on en est arrivé à changer là-dessus. Et Elsa, par rapport à ça, je trouve justement que c'était juste de montrer que bah, c'était les références qu'on avait. Oui, c'était les références qu'on avait et on s'en servait pour se dire qu'on aimerait bien se venger. Si j'aurais pu moi terrasser avec un fan d'un flash certains mecs,
je l'aurais fait. C'est un peu pathétique quand même.
Tu sais qu'un jour...
Moi, quand j'étais gamin, je regardais Tonnerre Mécanique, j'étais content, je prenais mon BMX et je me prenais pour Tonnerre Mécanique, je mettais mon casque comme ça.
Qui a fait un flop, je suis dégoûté. Elle était vachement bien.
Mais j'avais 10 ans, 11 ans, tu vois.
Ouais.
Mais quand t'arrives et que t'as 15 ans, 15 ans, et puis que tu penses encore que...
Oui, moi je l'ai pensé encore. Tu plaisantes, j'ai encore pensé encore longtemps, moi, après ça, et forcément. Mais c'est encore autrement. Parce que là, c'est par rapport au souffre-douleur, par rapport à beaucoup de choses.
Je comprends bien.
Voilà, moi, j'ai vécu tout mon collège et une bonne partie de mon lycée en souffre-douleur, jusqu'au moment où là, j'ai commencé vraiment à péter plus de gueule que de gens qui venaient m'emmerder. Et là, ça a commencé à se calmer. Mais d'accord. Effectivement, c'est pour ça que je peux comprendre. Et au contraire, c'est le côté, ce qu'on peut imaginer quand on est seul et qu'on se rattache qu'à une seule chose qu'on aime, c'est nos héros qui peuvent nous aider avec des pouvoirs qui peuvent nous... Si on a ces pouvoirs, ce qu'on pourrait en faire. Et aujourd'hui, qui, même à 40 berges, je suis désolé, voit des super-héros qui se disent qu'ils pourraient s'envoler, faire des trucs à Superman, ou... qui n'a pas quand même pensé ça? Et là, je peux dire qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait. Et si on te dit que c'est non, j'ai envie de dire que soit c'est le plus gros des mythos, soit c'est le plus gros faux cul qui existe. Parce que on a tous pensé à un moment, si on avait des pouvoirs, comment on s'en servirait si on les avait.
Oui, à un moment de sa vie, bien sûr. Ouais,
même quand t'es plus grand, mon ami.
Ouais. D'accord. C'était un grand débat, en fait. Hein. C'est la première fois qu'on parle d'un... Bah, mais c'est ça. Hein. C'est la première fois qu'on parle plus de autour du manga que du manga en lui-même. Mais qui reste, moi, je trouve, voilà, qui reste malgré tout intéressant avec les petits bémols que j'ai pu soulever, en tout cas de ma part. On parle même pas du dessin. Après, si vous aimez Sylvie Petit, vous aimerez ça. C'est dans la même veine. Mais une belle maîtrise.
Parce que c'est un dessin simple, assez léger, mais en fait, il y a toujours quelque chose d'intéressant derrière. C'est pas parce que c'est pas un dessin, la One Piece et des derniers trucs ou ce qu'on peut avoir avec des Rosellettes sur un. Non, c'est beau, c'est bien fait, c'est simple, mais ça donne ce que ça donne. Et les expressions, tout ce qu'on a à voir, c'est un peu vraiment, on revient dans l'esprit de Rumiko Takahashi avec des Lamu, avec des Ramin Demi. C'est le même style de dessin que vous pouvez avoir. Vous avez aimé ça? Vous aimerez ce style-là.
Merci pour la transition. Donc c'était Par le pouvoir des dessins animés de Elsa Brands chez Kanakiko. Et on enchaîne justement avec Urusei Yatsura, connu chez nous sous le nom de Lamu, dans sa collection Perfect Color Edition, donc un manga de Rumiko Takahashi, justement, le manga préféré de Elsa Brands. Après, c'est parce que je l'ai vu en interview dire ça. C'est un shonen, un tome en cours chez Glénat, il y en aura deux. Hein. Donc, c'est pas là, attention, hein, je vais, avant de raconter l'histoire, l'explique. La Perfect Color Edition, ce sont des histoires que Rumiko Takahashi a choisies dans l'œuvre originale et qui a recolorisé en deux couleurs, en rouge et en marron. Moi, je trouve ça magnifique. Après, c'est question de goût. Après, dedans, on trouve quand même des passages en noir et blanc, mais la majorité, quand même, en couleur. On dira après qui ça se destine. Hein. Mais en tout cas, voilà. Lamu, à la base, c'est ça date de 78 quand même. Ça a commencé, je pensais que c'était plus vieux que ça. Ça a commencé en 78. Et ça raconte quoi, en fait, Lamu? Ça raconte ça. C'est, la Terre est un jour envahie par des extraterrestres, les Oni, qui décident d'organiser un match entre un terrien et leur princesse à eux pour décider du destin de la planète. La princesse, ce sera Lamu, la fille du roi, et le terrien, ce sera Ataru Moroboshi, un lycéen qui est obsédé, loser et malchanceux. C'est sûrement le plus malchanceux de tout le Japon. Et donc, ils vont devoir s'affronter. Et le gagnant, eh bien, décidera en fait du sort de la planète Terre. Est-ce que, enfin, si le terrien gagne, eh bien, la Terre sera sauvée. Et puis, voilà. ce sera bien. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va, contre toute attente, alors que c'est un grand loser, il va gagner. Et comment il va gagner? C'est en ça, je me souviens encore, en touchant les, oui, puis en touchant les cornes de la mue.
C'est en arrachant d'abord le soutien-gorge, et elle se cache les seins, et lui, en fait, il arrive, il lui attrape les cornes.
Oui, je me souviens plus, t'as raison. Oui, ça y est, mais l'image me revient. L'image, tu vois, l'image me revient. Voilà, merci Rumiko Takahashi. Et donc, bah voilà, donc c'est l'état 1 qui gagne. Mais en fait, ce qu'elle va comprendre, la mue, elle, c'est qu'en fait, elle est promise maintenant à Ataru. Et donc, elle va pas arrêter de le coller. Et en fait, l'histoire de la mue commence comme ça. Ce que je vous ai dit, c'est dans les premières pages. Après, on part vraiment sur une suite de gags. En fait, la mue, c'est ça. C'est un peu la relation de Ryo City Hunter avec son nom français qui vient. Comment elle s'appelle, c'est qui lui met le coup de marteau en japonais?
Kaori.
Voilà, Kaori, pardon. C'est un peu cette relation.
Alias Laura, pour ceux qui, qui ne connaissent que sous Laura.
Oui, c'est pas, c'était Laura, malheureusement. Je plaide coupable, pour moi, c'était Laura. Et on a un peu cette relation entre Ataru et elle, où en fait, bah, elle, bah, parce que Ataru veut toujours aller voir ailleurs, hein, tout va les nanana, bah, lui va, elle va toujours arriver derrière, lui mettre des petits coups de jus, parce que son pouvoir, c'est de mettre des coups d'électricité, notamment. Pour ceux qui aiment bien un peu le japonais, parce que je me suis dit, bon, j'ai pas une grande connaissance du japonais, mais je me dis, Urusei, ça me faisait penser à Urusei. Urusei, ça veut dire bruyant. Et je me dis, mais c'est ça. Et en fait, j'ai regardé, effectivement, c'est un jeu de mots entre Urusei, qui veut dire bruyant, et en fait, ils ont enlevé le i qui est à la fin, le sai qui est à la fin, et l'ont changé par sei. Sei qui veut dire l'étoile, les étoiles. Donc, c'est les étoiles brillantes, si vous voulez, et Yatsura, ça veut dire les gars. Donc, en fait, il y en a qui traduisent par oh, les gars de l'étoile brillante, ou un truc comme ça. Donc, en fait, c'est un peu, voilà, ça raconte un peu l'histoire de ces envahisseurs qui viennent, et en fait, après, tu envahisseurs bruyants, on va dire, et ça se transforme plus ou moins en espèce de suite de gags, en fait, et de blagues. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc série prépubliée dans le Weekly Shonen Sunday entre 78 et 87. Je vous ai parlé d'édition. Je vais terminer là-dessus. C'est un recueil de 17 histoires autour des personnages bien connus de Lamu, pour ceux qui ont déjà lu. Donc Ataru, je vous l'ai dit, surnommé Darling, hein, parce que Lamu l'appelle toujours Darling. Shinobu, son ami d'école aussi, hein, qu'il convoite. Il convoite toutes les filles de toute façon. Hein. Sakura. Espèce de dieu en tout cas, et son oncle qui est un bonze qu'on appelle Cherry, qui fait du surf, ton surf. Voilà, donc on a 17 histoires, hein, avec ces personnages que vous connaissez si vous avez lu Lamu, et que vous découvrirez si vous ne connaissez pas Lamu. Qui veut commencer? Nico, si on le parle. Bon, Nico, t'as le droit à 5 minutes pour commencer, vas-y.
Ah ben je vais être un gros hater. Déjà, donc pour l'homme, parce que c'est le vrai nom de l'homme, c'est l'homme, pour ceux qui ne le savent pas, comme ça vous le saurez en même temps. Alors, moi, j'adore l'homme. Je suis un grand fan de Urusei Yatsura. J'adore ça. La version Bunko, je les ai tous. J'adore ça. J'aime vraiment cette œuvre. Mais, je rappelle une petite chose. La version de DBZ qui est sortie s'appelle la Perfect Edition. Donc c'était la version perfection, donc on avait la version des mangas, la version perfection. Quand elle est sortie, Urusei Yatsura, donc nous ce qu'on a vraiment cru au début, c'était la perfect édition de Urusei Yatsura, en version colorisée, parce qu'effectivement il y avait déjà des pages dans DBZ qui étaient colorisées, parce qu'on savait qu'ils pouvaient coloriser, donc on n'était pas étonné. Et là quand on voit, on découvre que c'est 17 chapitres pour 17 histoires, c'est quoi ? En fait, vous sortez pas une perfect édition. C'est juste une anthologie color édition. C'est pas une perfect édition, c'est une anthologie. C'est un choix de l'auteur. Donc perfect édition, moi je suis désolé, mais non, pas du tout. Et en plus, moi j'ai plein de clients qui n'ont jamais acheté. Ce qui sont pour eux, c'est si c'est que des anthologies, ça les intéresse pas. Ça aurait été la version en grand format de l'homme de ce qu'on avait. Je sais qu'il y a plein de clients qui le voulaient. Donc je suis dégoûté. Après, on retrouve les dessins de l'époque, on retrouve l'ambiance de l'époque. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'on retrouve des morceaux d'histoire. Ce ne sont pas des histoires complètes. Donc des fois, on commence au plein milieu d'une histoire où il n'y aura pas la fin et où il n'y aura pas de... Enfin, comment dire ça? C'est pas tout à fait ça.
Et le pire, c'est qu'à la fin, dans les bonus, il t'explique ce qui se passe en gros avant et après. Je trouve ça... Enfin, c'est reportez-vous NB, reportez-vous à telle page à la fin pour comprendre ce qui s'est passé avant et après. Franchement,
c'est... Voilà, donc en gros, c'est... J'espère que tu as bien pris la version Bunko, comme ça tu pourras la regarder, comme ça tu pourras comprendre ce qui se passe. Mais merde, je suis désolé, non. L'anthologie qui était sortie chez Kana avec sur Astro Boy était extraordinaire. Là encore, on te dirait que ça serait l'anthologie sélectionnée. Bon, bah voilà, c'est là-dessus. Mais j'ai l'impression vraiment, tu sais, c'est vraiment dire, allez, elle a gagné le prix Angoulême, vas-y, on va le donner, comme ça va se vendre. Non, non et non. Parce que quand nous, on va nous demander, on dit, bah oui, bah t'as l'histoire pas finie. Et si t'as pas acheté la Bonko, bah tu seras pas le début et t'auras pas la fin. Donc fuck. C'est comme si on prenait DBZ, juste les parties où ça a été colorisé, on te les mettait dans un livre, fait regarde. C'est l'anthologie avec tous les morceaux qui étaient colorisés. Allez, maintenant, si tu veux savoir de quoi ça parle, va acheter les bouquins. Vas-y, va chercher Bonheur. Non, vraiment, ça a été une déception. Pourtant, j'adore Rumiko Takahashi, j'adore l'homme. Mais là, sur le coup, c'est une vraie, vraie déception. Je suis dégoûté.
Baptiste, dis quelque chose.
Ah non, moi, j'ai rien à dire parce que, comme Nicolas dit, moi, à la base, quand j'avais lu les news, quand je voyais les news qui passaient sur mon fil Twitter ou Facebook, je voyais... réédition colorisée de l'homme, je me disais super, je vais enfin pouvoir lire le manga en son intégralité, chose que je n'ai jamais fait. J'ai regardé quelques épisodes de l'anime quand j'étais petit, je sais plus où ça passait ou si j'avais vu ça en VHS.
T'as vu le film de Oshi peut-être aussi, Amour Oshi?
T'as pas vu? C'est tellement vieux dans ma mémoire, je saurais pas dire quel épisode j'ai vu, ni si c'était un OAV ou quoi que ce soit. Et donc du coup je tombe sur ça, je suis peut-être pas autant déçu que Nico parce que je pars de zéro dans le manga, dans ce manga-là, donc du coup, j'ai quand même souri, j'ai quand même apprécié les histoires, et visuellement, les colorisations sont à tomber par terre.
Ah, on est d'accord.
Ça, par contre, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est génial.
Ouais, il y a un travail sur la couleur, que ce soit celles qui sont en variante de rouge ou certaines qui sont un peu plus en aquarelle, plus au milieu du tome, dans certains chapitres. Certains chapitres en particulier, vraiment, visuellement, j'ai pris une claque. Donc, il y a le côté déception de ne pas avoir ce à quoi je m'attendais et au final de sûrement jamais l'avoir. Je ne sais pas si encore actuellement les tomes de l'homme sont plutôt faciles d'accès. Bon coup, ouais.
Alors, ils viennent juste de rééditer parce que pendant longtemps, il y avait des numéros qui étaient en rupture et donc forcément, moi j'ai plein de clients qui ont essayé de les avoir. C'était une catastrophe, mais ils ont ressorti. Et en plus, le pire, c'est que pour la Japan, à un moment, ils ont ressorti, réédité pour la Japan certains numéros qu'on n'avait même pas nous et on ne pouvait même pas les commander en magasin. Et donc, c'est pour ça que Glénat, genre, je sais que. Voilà, bon, bah désolé, je vais mettre quelqu'un de tête à dos, mais Jacques Glénat ou tous les trucs de Glénat, ceux qui sont dans les autres sœurs, là, ils sont dans une tour d'ivoire. Ils n'en descendent pas, ils ne vont pas voir les libraires, ils ne vont pas voir leur public, ils ne voient pas ce à quoi les gens demandent ou s'attendent. Et des fois, ils nous sortent des trucs, on va dire, mais attendez, avant de sortir ça, mais réfléchissez sur deux, trois trucs. Tous les éditeurs aujourd'hui viennent demander, pas conseil, parce qu'on n'est pas les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents, mais nous, on a vraiment un rapport avec les gens et avec tous les autres éditeurs, on sait des choses. Donc, et quand on voit ça, on aura pu leur dire, mais faites attention à ce que vous mettez dessus. Mais voilà quoi, je suis désolé, mais non. Non, mais Glénat, je sais pas ce qu'ils font, mais ça devient de pire en pire hein, sur des choses, mais c'est incroyable. Et ça, pour moi, ça, bah, malheureusement, non. C'est vraiment dommage. Et je sens que ça va pas se vendre, et je sens que ça va disparaître sur plein de trucs, et ça va être une... C'est con, parce que ça mériterait tellement d'être mis en avant d'une autre manière. Ça aurait été présenté autrement, ça aurait été fait autrement, on aurait pu le mettre nous en avant autrement, on aurait pu travailler ça autrement. Et ça aurait été peut-être intéressant, mais vraiment, ça a été grosse déception.
Puis le problème que c'est en genre de choses, c'est qu'après, ils vont utiliser ça comme exemple pour dire, bah non, l'homme, ça se vend pas.
Ouais.
Ça, c'est dommage, parce que moi, maintenant, j'ai
surtout avec le prix qu'elle a eu en Goulême, c'est sûr que c'était le moment
Oui, voilà, exactement.
Ils ont relancé Ranmi. Pour le coup, l'édition perfecte est vraiment réussie. Hein, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus.
Il faudrait que je lise aussi.
En 10 tomes terminés. Ah, ouais, si. D'ailleurs, moi, si je peux juste vous couper là-dessus, moi, je pense que ce n'est vraiment pas une œuvre pour commencer sur Rumiko Takahashi. Je pense que c'est vraiment, il y a une œuvre avec laquelle commencer parce qu'à la fois, bah, le récit est là, l'humour typique de Takahashi est là. Et l'édition est là, c'est Ranma Anmi, la dernière édition. Je pense que c'est avec ça qu'il faut commencer et vous ne serez pas déçus, à mon avis.
Par contre, un truc, si vous aimez Rumiko Takahashi, si vous avez envie de découvrir quelque chose que vous ne vous attendez pas, parce qu'entre Riné, où le héros s'appelle U, parce que ça fait urineux et ça me fait rire, désolé. Donc entre Riné, entre Inuyasha, Ranma Anmi et l'homme, il y a des petites œuvres que vous pouvez, à la Inès, que vous allez pouvoir trouver en chinant dans des endroits qu'elle vous citera, qu'elle vous donnera des conseils à la Marie Kondo version Inès pour trouver des mangas. C'est tout ce qui est les recueils qu'elle avait faits avec Le chien de mon patron, Un bouquet de fleurs rouges et La tragédie de Paix. C'est trois œuvres comme ça. Le dernier a mis beaucoup de temps à sortir, mais il est sorti un peu au dernier moment, un peu caché en catimini. Mais regardez-les, parce que ça, ça vaut vraiment le coup. C'est une autre histoire, c'est une autre manière de faire de l'auteur. Elle a une autre écriture et un peu, on s'approcherait de Maison et Coucou, mais version un peu plus mature, mais toujours une pointe d'humour qui est derrière, très très fort. Le chien de mon patron qui m'a fait mourir de rire, mais enfin, en même temps très très touchant. J'avais l'impression d'avoir un mélange entre... C'est comme si Ramin Demi s'était mis au sérieux à la Maison et Coucou, mais toujours avec son côté déjanté. Et ben c'est assez paradoxal, mais c'est tellement bien. C'est pour ça que ces trois œuvres-là, si vous avez l'occasion, trouvez-les, lisez-les.
Oui, qu'on peut trouver dans le recueil Gold, je sais plus quoi. On en avait parlé.
Oui.
T'en souviens pas? Voilà.
Oui, le W machin. Ah, voilà.
Voilà, c'est là-dedans effectivement. Et c'est très très bien aussi. C'est tout en cam, je crois. Hein. Oui. Des courts en cam, voilà. Ouais. Quoi d'autre, Baptiste?
Bah, par ça, pas grand-chose. Si ce n'est que du coup, bah, j'ai beaucoup apprécié les histoires malgré tout.
Ouais.
C'est quand même très rafraîchissant, je trouve, dans le paysage actuel, de retrouver ce genre de classique remis au goût du jour, du coup, par la colorisation. Même si, malgré tout, bah, ça reste dommage de ne pas pouvoir en profiter en son intégralité de cette manière.
Ce qui est super intéressant, c'est de voir toujours son... Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir son rapport toujours aux croyances, croyances et aux mythologies.
L'omniprésence des yokai.
Voilà, des yokai et puis autres. Hein, voilà, où effectivement, on parlait de Cherry et de Sakura qui en font partie. Et c'est vrai que bah, parce qu'elle les connaît, parce qu'elle a grandi avec, elle arrive à faire des blagues sur le sujet, tout en restant respectueuse, tu vois. Mais elle fait tout, voilà. Et l'humour vient de ça aussi. L'humour vient de ça aussi, de ces croyances-là. Elle arrive à faire quelque chose, et ça, on le retrouve bah, dans les petites histoires que tu as nommées, notamment, Nico, mais aussi bah, dans Urusei. Voilà.
Maison et Coucou, ça doit sortir en début d'année prochaine, je crois.
Il va y avoir plusieurs rééditions, effectivement, et Maison et Coucou va ressortir dans une belle édition. Et là, en fait, j'allais dire pour la fin, quand on aurait tous terminé, j'allais le dire pour que vous puissiez le regarder, mais Inès l'a fait avant. Si vous enlevez la jaquette, il y a une sous-jaquette qui est extraordinaire. Moi, j'aurais eu même ça, j'aurais pris un pied incroyable, parce que c'est magnifique. C'est une sorte de fresque, le livre, c'est un tableau entre les deux. C'est sur tous ces personnages, avec un côté vraiment humoristique de tout ce qu'on peut avoir de l'œuvre de l'homme sur la première et quatrième de couverture avec la tranche comme ça, ça se suit comme un tableau, c'est magnifique. Si vous avez l'occasion de regarder, enlevez la jaquette, regardez, c'est vraiment magnifique.
Ouais. Mais heureusement quelque part qu'ils l'ont pas fait, c'est vraiment bien pour les fans. Heureusement qu'ils l'ont pas fait, parce que je pense qu'une couverture comme ça serait pas vendue. Au Lézard Noir peut-être, mais pas là. Ouais, bah moi aussi bien sûr, mais bon voilà. Ok. Donc c'était Urusei, d'autres choses encore mes amis, non. Urusei Yatsura, l'homme, de Rumiko Takahashi chez Glénat, l'édition Perfect Color. Bon bah écoutez, hein, voilà, deux tomes, hein, c'est deux tomes. C'est sorti en 2016 au Japon, 2019 chez nous, ça vient de sortir. Écoutez, vous ferez vos propres idées, hein, voilà. En tout cas, je suis super content de cette nouvelle-là. Parce que justement, moi, étant un grand fan du dessin animé, bien évidemment, de Maison et Coucou, hein, c'est mon dessin animé préféré, et bah, ça sera l'occasion enfin de lire le manga, parce que je reconnais que je n'ai jamais lu ce manga.
Même si je râle dessus, je vous conseille quand même, si vous n'avez jamais lu là-dessus, de pouvoir lire et découvrir un petit peu l'univers. C'est pas parce que moi, je trouve ça inadmissible d'avoir fait comme ça, que ce n'est pas forcément bien. Mais la seule chose que je trouve bien par rapport à ça, c'est que ça va relancer beaucoup de choses autour de Rumiko Takahashi et d'autres œuvres qui vont sortir, comme Maison et Coucou, qui va revenir et tout ça. D'ailleurs, ils vont faire à peu près la même chose, on va retrouver ça par rapport à City Hunter avec la réédition de Family Compo. On va retrouver vraiment pas mal de vieilles choses comme ça qui n'existaient plus ou qu'on trouvait plus trop, qui vont ressortir. Donc suivez bien ça. Pour les nostalgiques, il y a des choses qui vont enfin revenir, et vraiment c'est des œuvres qui sont majeures et qui ont amené aujourd'hui à voir ce qu'on a là. Ce qui veut dire que si vous trouvez que c'est moche en disant oh mais c'est vieux, non, dites-vous que sans ces œuvres là, il y a des œuvres qu'on n'aurait pas aujourd'hui. Donc suivez ça, c'est très intéressant.
Donc j'aurais dit, on est en train de parler de Urusei Yatsura, de Rumiko Takahashi, Perfect Edition, Color Edition pardon. Un tome en cours, le deuxième sort je ne sais pas quand, bientôt. En tout cas, ce sera fini en deux tomes. En fait, je me rends compte que ça fait deux mangas dont on parle. Et en fait, on parle plus de ce qu'il y a autour, de ce qu'il y a dedans. C'est un peu révélateur quand même. Hein. Mais bon, on va rattraper tout ça parce que là, on va parler de Samurai 8. Samurai Hachimaru-den. La légende de Hachimaru. C'est bien parce que Hachimaru. C'est vrai parce qu'il reprend, les noms qu'on pouvait trouver dans Naruto. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Donc de Masashi Kishimoto et Akira Okubo. Akira Okubo qui était l'assistant du maître Kishimoto et qui eh bien, est maintenant est complètement au dessin et Kishimoto est complètement au scénario. Deux tomes en cours. Ils ont sorti en tome séparé. Et avant ça, ils les ont sortis une semaine avant avec le fourreau et à l'intérieur une belle frise. Très belle frise. Mais de quoi que c'est que ça parle le nouveau manga? Parce que c'est bien, on attend Kishimoto. Le problème, c'est que Kishimoto a tellement cartonné avec Naruto et déçu. Mais bon, à chaque fois, on dit toujours que la fin d'un manga déçoit. Hein, voilà. Après, il a essayé de faire Boruto de loin. Hein, il a complètement délégué le truc, mais il chapeautait un petit peu. Les gens, bon voilà, c'est une réception assez moyenne. Donc du coup, là, il revient avec une vraie œuvre où il est à 100% au scénario. Qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça raconte déjà? Donc ça parle de Hachimaru, donc Hachi 8, merci, le numéro 8, qui atteint d'une maladie, l'empêchant de sortir de chez lui. Il est relié en permanence à une machine qui le garde en vie en fait. Et il passe ses journées à jouer aux jeux vidéo. Un jeu vidéo de samouraï plus précisément. Mais il souhaiterait...
Un simulateur qui lui permet d'apprendre tous les gestes et techniques et tout ça.
C'est pour les précisions, tout à fait, c'est ça. Mais il souhaiterait lui partir à l'aventure. Hein, évidemment, il est cloîtré chez lui, il aimerait bien quand même sortir. Son père, lui, ne l'entend pas de la sorte et ils vont avoir une dispute. Hein. Il va se passer plein de péripéties, il se passe énormément de choses dans le tome 1, on va en parler après. Énormément de notions à engranger. Et en tout cas, voilà, ils vont se fâcher avec le papa et à un moment donné, il y a une personne qui va arriver et qui va en gros menacer de tuer le papa. Et donc, pour sauver son père, Hachimaru va se faire seppuku, va se tuer, voilà, se donner la mort, va se sacrifier pour son père. C'est un shonen, hein. C'est alors que le dieu de la guerre le choisit pour devenir un samouraï. Et il lui redonne vie. Hachimaru va dès lors pouvoir visiter cet univers, l'univers, parce que disons-le maintenant, c'est une espèce de space samouraï opéra. Ça se passe dans, pour l'instant, c'est une planète, mais on sait que ça va se passer sur d'autres planètes. Ce sont des cyber ninjas aussi. On n'est plus du tout chez Naruto dans un truc beaucoup plus classique.
Cyber samouraï, pardon.
Merci. Cyber samouraï, on se comprend. Et donc là, on est vraiment dans, voilà, c'est dans l'espace avec des cyber samouraïs. Et donc, il va pouvoir enfin commencer maintenant qu'il n'est plus dépendant, maintenant qu'il revit. Il n'a plus ce problème de dépendance à sa machine, donc il peut sortir et il va pouvoir commencer son entraînement auprès du maître, lui aussi un cyber chat.
Comment je peux dire, c'est tout le Daruma, qu'est-ce que c'est? Le Daruma, en fait, c'était un prêtre qui voulait atteindre une sorte d'illumination et il s'est mis à méditer, à prier. Sauf que à force de prier, ben voilà, et de méditer, il a atteint un certain degré. Et à un moment, malheureusement, il s'est endormi. Et fou de rage de s'être endormi, il s'est coupé les paupières. C'est pour ça qu'en fait le Daruma a toujours les yeux ouverts parce qu'il n'a pas de paupières. Et ensuite, il, à force de rester assis, donc il s'est mis face à un mur dans une grotte pour ne pas avoir de distraction et il s'est médité devant ce mur tout le temps. Et au bout de plusieurs années de méditation, il a perdu ses bras et ses jambes et donc en fait pour se déplacer, il sautait avec ses fesses et ses jambes donc. Et par la suite, il a donné en fait cette petite boule là qu'on a retrouvée, c'est d'où la forme du Daruma. Et il y a toute une légende avec aussi un empereur et compagnie, mais ça, je vous en passerai les détails. Et d'ailleurs, il a même été chez les Shaolin pour leur apprendre la philosophie et compagnie. Mais le Daruma, tourne autour d'un philosophe.
Merci, là je suis... Ah, je viens au podcast, j'apprends des choses. C'est parce que voilà, tout le monde veut la petite figurine que les Japonais ont chez eux. Tu vois, que j'ai confondu.
C'est celle-là où il faut peindre les yeux.
Oui, c'est ça, tout à fait, c'est ça. Voilà. Voilà, donc il va apprendre auprès de ce chat Daruma, hein, notre ami Hachimaru. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le côté graphique a été complètement confié à Akira Okubo, hein, ancien assistant de Kishimoto. La série a été lancée le 12 mai 2019. C'est réalisé, hein, comme ça, je parle pas en France. C'était quasiment en simulcast parce que Kana proposait en démat les chapitres au fur et à mesure. En simultrad, comme on dit. Et du coup, voilà, donc comme j'ai dit, là c'est le manga. Il est sorti en version 2 tomes maintenant ou pas encore?
Il sort vendredi.
Allez, sort vendredi. Okay. La semaine dernière, on a eu le droit à la version avec le fourreau. Et
quand vous allez entendre cette vidéo, on sera donc vendredi 4. Donc ça va sortir le vendredi 4.
Vendredi 6.
Ah oui, on est le 5, oui, c'est vrai, vendredi 6 novembre. Donc ça veut dire que vous l'entendrez bien après, donc ça sera déjà sorti.
Ouais, vous l'entendez, non, si tout se passe bien au niveau du montage, que quelques jours après, normalement, on espère. Voilà. Comme je l'ai dit juste avant à mes collègues avant de commencer le podcast, alors comme vous le savez, Kino et moi, on n'est pas très shonen, hein, vous le savez. Nico, c'est le digne représentant du shonen, il est là heureusement pour nous en proposer, pour le défendre. Eh bien, écoutez plutôt, mes amis, j'ai hyper accroché. Mais alors vraiment, à ma grande surprise, hein, à ma grande surprise, comme souvent, c'est je donne à mes gamins. Tenez, lisez. Ah, vous me direz ce que vous en pensez.
Ah, Nico, il est fier là.
Depuis le temps que j'essaie de leur faire apprécier un shonen, et de toute façon, avec Inès, on a un plan. Depuis le début, on veut qu'ils aiment un shoujo, un shonen, un yaoi, un yuri. On veut qu'ils lisent ça et qu'ils les apprécient. Donc, on a ce plan de vous en faire. Même un jour, on va vous faire un spécial podcast obligatoire, intégralement yaoi.
Bien sûr. Inès, tu voulais dire quelque chose ?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec
toi. Ouais, d'accord, ok, moi, c'est pour dire ça, c'est pas la peine. Oui, donc voilà, à ma grande super surprise, j'ai été emporté par. Alors, déjà, tout d'abord, par le dessin. Voilà, je dois le dire, le dessin m'a transporté. Alors, effectivement, on trouve dans le chara-design des traits du maître, hein, de Kishimoto, complètement, ça, voilà. Par contre, pour ce qui est des décors, je trouve qu'ils sont partis dans une autre direction que ce qu'on a pu voir dans Naruto. C'est pour moi moins fouillis, si je puis me permettre. Excusez-moi, les fans de Naruto. Je parle dans le manga, l'anime, ça passe très bien. Dans le manga, je trouvais que c'était très difficile à lire par moments. Des problèmes de lisibilité à mon goût, surtout dans les premiers tomes. Mais là, on a des décors qui sont hyper clairs, parce qu'on va faut le mettre en avant aussi. Au niveau contraste, c'est le blanc qui domine. Hein. On a vraiment des décors et des cases. Vous voyez, c'est très clair. Hein. Je vois Baptiste qui est en train de feuilleter. Ça reste voilà, dans des dominances de clair. Et en termes de direction artistique pour les décors, on pense, bien évidemment, là je pense que c'est vraiment justifié de le dire, on est vraiment sur un Miyazaki du Hayao Nosika. Là, on est vraiment sur ce genre de d'influence pour les décors, et on y trouve, certains, évidemment, en parlant de Mobius, parce que bien évidemment pour Nosika Miyazaki c'était un film de Mobius, donc on trouve ça. Et voilà pour voilà ce que je voulais dire par rapport au dessin. Donc moi voilà, première stupeur, c'est que j'étais complètement transporté par le dessin, là où dans Naruto je l'étais beaucoup moins, même si j'aimais l'animé, mais en tout cas le manga m'attirait beaucoup moins. C'est ça la première chose. Deuxième chose, le premier tome est extrêmement dense. Là, je pense que là, personne ne me dira le contraire. C'est un premier tome. Il faut s'accrocher. Il y a énormément de choses qui se passent au niveau de l'histoire. Ça commence dans un jeu vidéo, mais on ne le sait pas tout au début. Après, on apprend quelques pages après que le gamin en fait était dans un jeu vidéo, enfin une simulation, comme dirait m'a repris Nico tout à l'heure. Ensuite, on commence à nous parler. Donc tout de suite, il y a des péripéties qui arrivent. On nous explique ce que c'est qu'un samouraï. Hein, c'est une personne en fait qui est choisie par le dieu de la guerre et qui va lui redonner vie. Premier concept. Deuxième concept, on lui apprend que l'âme, c'est ce qui va lui servir pour de pommeau, enfin ce qui va lui servir de pour construire son sable qui est aussi quelque chose d'organique. Voilà, je parlais du monde tout à l'heure à la Nausicaa, c'est aussi un monde qui est extrêmement organique. Tout est organique en fait dans le sabre est organique, l'âme est organique, enfin tout est voilà, on est vraiment dans quelque chose de 100% organique. Donc ces notions là, donc là je les ai devant moi, on voit qu'il sort du ventre sa boule, son âme en fait, qui va mettre sur le pommeau. Ensuite il y a l'os en fait, c'est comme un os le reste du sabre. Qu'est-ce qu'on apprend aussi ? On apprend que ces samouraïs-là sont aussi appelés les clés. Bon, je ne vais pas vous spoiler, parce qu'après, y a, à la fin du deuxième, il y a toute une explication. On apprend qu'est-ce qu'un keyholder ? Un keyholder, c'est un espèce d'animal, un animal qui va pouvoir aussi l'aider, se transformer en différentes choses. Encore une fois, un élément organique. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans ces premières pages ? Là, je sais vraiment qu'au début. Hein. Bien évidemment, on apprend un petit peu l'histoire de ces artefacts, de cette boîte de Pandore, et d'une autre boîte encore, vous verrez plus tard, qui sont ouvertes grâce à ces clés-là. On va voir qu'il y a deux grandes écoles qui s'affrontent pour ouvrir, et pour différentes raisons, ces boîtes, qui pour détruire l'univers, d'autres pour la construire, on va dire ça comme ça. Bon voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore énormément de choses. Et ça, c'est rien que dans les premières pages du premier tome. Si bien que, comme j'ai lu en deux, trois fois le premier tome, je n'ai pas pu le lire d'une traite, j'ai demandé à mes gamins, je dis, mais vous avez compris le début du premier tome ? Et tous, ils me disent, oh non, on n'a pas trop capté en fait. Et en fait, c'est vraiment, est-ce que vous pouvez ressortir le premier tome, s'il vous plaît ? Est-ce que, non, c'est pas écrit là. En fait, c'est écrit dans le rabat. Vous savez, les auteurs, ils mettent toujours leurs petits mots là. Moi, j'aime les calamars, c'est celui-là. Moi, j'aime les calamars. Et du coup, effectivement, Kishimoto va nous dire qu'il aime les calamars. Mais je vais vous lire ce qu'il va dire parce que c'est vraiment, ça résume comment la façon dont on doit lire en fait son nouveau manga. Et donc, il dit : depuis que j'ai commencé ce manga, je grignote souvent du calamar séché. C'est exactement ce qu'il me faut, car si je mange trop d'autres choses, j'ai sommeil. Je voudrais aussi faire de ce manga un manga calamar. Plus on le mastique, plus il a de saveur. Ceux qui diront « mais c'est du chewing-gum », je vous invite à en mâcher immédiatement un autre, entre parenthèses le tome 2, avant que le premier ne perde son goût. D'où le fait que Kana nous ait sorti les deux premiers tomes ensemble. Et je dis ça parce qu'en fait, j'ai relu le début du tome 1, j'ai relu en entier quasiment le tome 2, et c'est vrai que pour moi, j'ai encore plus apprécié à la relecture. Et je trouve que toutes les leçons que je vous ai dites, qui sont dans le premier tome, qu'on nous assène, hein, qui sont vraiment assez lourdes, comme souvent dans un shonen, parce qu'il faut aller vite, c'est les techniques d'écriture, on le sait, hein, si vous avez lu Bakuman, puis on en a parlé, on vous a expliqué comment ça se passe dans un shonen, il faut plaire assez rapidement, vu que c'est du périodique. Ça sort voilà, toutes les semaines un nouveau chapitre. Il faut vraiment s'accrocher. Si vous accrochez la moitié du premier tome, croyez-moi, dans le deuxième tome, ça va payer. Il y a énormément de choses. Tout revient, tout sert. Tout ce qui est posé dans le premier tome sert. Et en fait, les deux premiers tomes ferment quasiment un arc, en fait. L'aventure commence, en fait, à la fin du deuxième tome. Enfin, c'est... Il y a une première aventure qui s'est passée, un premier arc, et l'aventure, le reste de l'aventure, et on ne sait pas vers quoi vraiment ils vont partir. Mais et voilà... est ouverte. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement appréciable de voir que, bah, en fait, c'est un auteur qui balance plein de choses, mais il maîtrise complètement son récit. Je vous laisser la parole. Hein. Deuxième chose, pourquoi ça m'a plu aussi ? Parce que je trouve que c'est un shonen, malgré les petites blagues, l'humour typique, les valeurs typiques d'un shonen. On a quand même un gamin, comme je vous l'ai dit, qui se fait quand même seppuku pour son père dès le départ. Après, il y a encore une mort dans le deuxième tome, assez tragique. Bref, c'est quand même un manga dur, on peut dire ça comme ça, qui n'hésite pas, c'est un shonen, de parler de la mort. Kishimoto, comme vous le savez, aime bien mettre du sens partout. Le personnage s'appelle Hachimaru, c'est pas pour rien, c'est le numéro 8, vous verrez pourquoi. Il y a du sens partout, les clés ont un sens, tous les noms des différentes personnes, même le nom de la princesse qu'on va voir après, a un sens, les sabres, enfin bref, il n'y a rien qui est fortuit dans sa construction. Ça, moi j'aime beaucoup ce genre de récit. L'humour, je terminerai peut-être là-dessus, j'ai autre chose à dire, mais je vais vous laisser la parole. L'humour, moi j'ai trouvé ça vraiment, enfin moi ça m'a, personnellement ça m'a fait rire, où on a ce personnage principal qui ne semble pas tout à fait un Naruto. On peut pas dire que c'est un Naruto en puissance. C'est un personnage de shonen, certes, mais c'est pas un Naruto en puissance quand même, malgré tout ce Hachimaru. Et en fait, souvent, on a le maître dont on a parlé tout à l'heure, qui va régulièrement lui donner des leçons. Et là, il est en train de donner des leçons. Il lui explique ce que c'est que le destin, parce que le destin, il dit, bah c'est quoi le destin ? Et donc, il lui explique, c'est une fatalité d'une rencontre dans des circonstances imprévues. Et c'est une chose que le ciel a décidé d'avance. Tu pourrais au moins savoir ça. Et là, on le voit qu'il est en train de se gratter partout. Et le maître lui dit, mais que t'arrive-t-il ? C'est peut-être une allergie au chat. Et puis l'autre qui répond, je suis un robot. Et après, il reprend plus tard, il dit, c'est bon, j'ai compris en fait, je dois être allergique à tes explications. Et en fait, ça revient régulièrement. Et le fait qu'il se gratte à chaque fois donc c'est un running gag, à chaque fois qu'il va lui expliquer des choses sur le monde dans lequel il vit, parce qu'il ne connaît rien, parce qu'il n'est jamais sorti de chez lui, Hachimaru. C'est vraiment quelque chose qui, moi, en tout cas, m'a fait, je ne vais pas éclater de rire, mais vraiment, ça marche super bien. Et à un moment donné, il va même... paraphraser un petit peu ce que va dire le maître, mais à sa sauce, il va dire plus tard, il faut toujours que je le garde, en parlant de son sabre, il faut toujours que je le garde avec moi, parce que même si je porte un slip, c'est comme si j'avais les fesses à l'air. En fait, il reprend une autre phrase que le maître l'avait donnée, et il la met à sa sauce avec son jargon à lui, et vraiment je trouvais ça, moi en tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plus que sourire. Bon, écoutez, je vous laisse la parole parce que j'ai encore plein de choses à dire, c'est vraiment, ça m'a transporté, j'ai hâte pour le coup de lire la suite, hein, le découpage est fou, tu pars d'une planète qui est en train de se faire exploser, hop, t'arrêtes dans un takoyaki, et ça fait sens, c'est pas seulement du motif, c'est que ça fait sens, c'est tout le long comme ça, vraiment, je suis transporté par ce manga. Baptiste, est-ce que tu as aimé ? Non, je crois que t'as un peu plus de réserve, toi, non ?
Oui, vas-y. Complètement. Visuellement, par contre, déjà, pour commencer par ce que j'ai le plus apprécié là-dedans, c'est que visuellement, comme tu l'as dit, c'est dingue. Que ce soit les décors et surtout les scènes d'action. Ouais. Ça, pour ça, les scènes d'action, je retrouvais vraiment, même si c'est pas Kishimoto au crayon, je retrouve vraiment tout ce qu'il faisait dans Naruto. Il y avait peut-être moins le sens de la perspective. Je me souviens qu'il y avait des effets assez cinématographiques, des fois avec du fisheye, des choses comme ça. Là, je les retrouvais un petit peu moins. Mais
il y en a
quand
même pas du tout. Hein.
Oui, ouais. Voilà, au niveau des combats, j'ai vraiment pris une petite claque gentille.
Ouais. C'était vraiment... Ça va venir, toi, c'est que c'est.
Voilà. C'est vraiment ce pourquoi j'ai réussi à tenir jusqu'au tome 2, parce que le scénario m'a pas du tout accroché, l'univers, j'ai pas accroché non plus.
Faut accrocher, on est d'accord. Je pense que c'est vraiment un univers auquel il faut accrocher, je suis d'accord avec toi.
Le tome 1 m'a complètement perdu.
Je comprends.
Donc, du coup, le tome 2, la lecture est un peu plus poussive. Mais bon, voilà, je lui reconnais quand même ses qualités et je conçois totalement qu'on puisse apprécier. Et tu l'as très justement souligné, moi j'ai directement pensé à Moebius quand j'ai vu les décors, pour revenir sur le visuel. Vraiment, tout ce qui est au niveau de la nuance de couleur, le blanc est très bien géré. Ouais. On peut avoir souvent le problème de rester dans une seule nuance de couleur, le problème de se retrouver avec un côté un peu brouillon, là c'est pas du tout le cas. Mmh. Même si les pages sont bien pleines de détails, c'est jamais brouillon, c'est jamais trop. Vraiment, tout ce qui est visuel est parfaitement réussi. Comme je le dis, c'est les personnages, c'est le scénario, c'est ça qui m'a un peu... qui me laisse un peu en demi-teinte par rapport à ce manga. Mmh. Pourtant, je suis pas du tout quelqu'un qui n'aime pas les shonen habituellement, bien au contraire. C'est juste que voilà, je me suis... Ouais, je saurais pas vraiment expliquer non plus pourquoi il y a quelque chose qui me faisait tiquer dedans, que j'appréciais pas.
Tu n'arrives pas encore à mettre le doigt dessus.
C'est
alors.
Ça, exactement.
C'est marrant.
Ça m'a laissé perplexe. On va dire.
Et, d'accord.
Si aussi, le seul bémol que je mettrais au niveau du visuel, c'est le chara-design de certains personnages qui m'a pas trop plu. Le personnage principal en particulier.
Sur son visage, je suis d'accord. Pour le reste, dès qu'il a son... Et j'ai hâte de voir, parce qu'à un moment donné, on a une vue de lui. Parce qu'en fait, le Daruma a eu une vision de lui plus tard, où on le voit de dos avec en armure de samouraï, accompagné de la princesse et de son keyholder. Ça, j'espère qu'on va y arriver. Parce que normalement, c'est...
Oui, ça, par contre, le design de la princesse, le design même des machines et des... j'ai envie de dire des stands, mais non, j'ai oublié le nom. Des
keyholders ?
Oui, voilà.
Ah, c'est ça. Les bestioles qui, ouais.
Voilà, ça, pour ça, vraiment, c'est très, très bien foutu. C'est très, très, c'est très joli.
Ouais.
Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, malheureusement.
Ouais.
Si ce n'est que je pense que ça pourra plaire à beaucoup de monde. Et que vraiment, il n'y a pas de raison que ça floppe ou que ce soit vraiment mal considéré par rapport à Naruto. Au contraire. Surtout pour les déçus, je pense, de la fin de Naruto, on retrouve quand même pas mal d'éléments avec la maturité de Kishimoto. Mmh. Mais le début est tout aussi enthousiasmant, je pense, que pour les fans de Naruto qui ont apprécié.
Mais tu sais, à un moment donné, donc on avait, mes gamins aimaient bien Boruto. Du coup, on a regardé Boruto, alors qu'ils n'avaient pas encore trop vu de Naruto. Et moi, je trouvais ça distrayant, mais un peu fadasse, quoi, même au niveau du dessin. Et ils ont, à un moment donné, ils ont mis toutes les saisons sur Netflix, là. Le Naruto, Naruto Shippuden, tout ça. Du coup, j'ai dit, viens, regarde Naruto, le premier épisode. Ça date un peu, mais regardez. Et franchement, on retrouve ce qu'il y a dans Samouraï 8 dans le premier tome. C'est d'une densité en termes d'informations. Ça dure 20 minutes, le truc. Tu dis, attends, mais l'épisode dure 40 minutes. C'est un pilote, comme dans une série américaine. Non, non, le truc, il dure 24 minutes. C'est d'une densité. Le dessin est complètement d'actualité. L'animation aussi. Vraiment, je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait sur Boruto, quoi.
Les dessins de Naruto, de toute façon, dans le manga, tu les regardes aujourd'hui, ça choque pas du tout. Tu pourrais te dire que ça sort aujourd'hui, tellement c'est bien foutu et tellement il a un sens de la perspective qui est complètement dingue. C'est vraiment Kishimoto, un des dessinateurs les plus talentueux, je trouve, en tout cas dans le shonen. Et voilà.
Inès,
est-ce que vous pensez que ça pourrait devenir un grand manga, un classique? Parce que honnêtement... Quand je te prends. Honnêtement, du coup, j'ai pas lu, mais quand je vois la couverture, moi, j'ai l'impression que c'est un autre shonen. Je sais pas, parce qu'il y a quand même pas mal de mangas. Là, je pense par exemple à l'Attaque des Titans, où vraiment, dès le tome 1, on pouvait s'en douter, en fait. On pouvait s'en douter que ça allait devenir un grand manga. Bon, comme je l'ai dit, je l'ai pas lu, mais quand je vois ça, moi, je trouve que ça fait un peu ronflant quand même. Ça m'intéresse vraiment pas.
Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un gros fan. J'ai encore jamais dit au podcast. Je suis un gros fan de ninja, de samouraï, de cyber. Et la version cyber en plus. J'aime beaucoup. Ça me dérange pas. Enfin, si, ce qui m'a dérangé dans notamment Ninja Gaiden, c'est ce côté justement quand on commence à arriver dans la ville et on commence à être un petit peu ce ninja habillé comme un ninja de Konoha. Enfin, pas le Konoha, mais un ninja de la forêt arrive. Ça me choque un peu ce mélange. Mais par contre, si on me propose directement un univers cyber samouraï et cyber ninja, ça me dérange pas du tout. Et l'univers pour moi est vraiment extrêmement cohérent. C'est pour ça que je dirais qu'il y a un vrai potentiel dans ce manga-là. c'est à la fois c'est mon amour qui parle pour le, comme j'ai dit, pour les cyber ninjas, cyber samouraïs, mais je pense que cet univers est extrêmement bien posé et qu'il a largement moyen de faire quelque chose. Je suis d'accord avec toi, les couvertures, mais tu sais, Naruto, tu prends les couvertures, moi j'ai trouvé pas exceptionnel non plus au final, hein. On est tous marqués par l'animé, moi les couvertures de Naruto, je sais pas, ça me transportait pas.
Les premières, c'est que des personnages, c'est à partir de tome 15, on a commencé à voir des petits décors apparaître avec des autres personnages, donc ça commençait vraiment à jouer là, mais au début c'était simple, c'était toujours Naruto qui tient la copa sur l'épaule ou un autre qui apparaissait, on avait toujours un personnage ou deux qui apparaissait sur Jacket.
Merci Nico. Donc, je vais laisser Nico répondre à cette question-là. En tout cas, pour moi, oui, il y a un potentiel. Ben, tu vas t'arriver sur une double page où tu vois un petit peu une des puissances que déclenche le Daruma. C'est assez, une double page assez impressionnante. Nico, est-ce que ça, pour toi, ça a le potentiel? Ben, est-ce que tu veux commencer par répondre à cette question-là, puis après t'embrayes?
Est-ce que
pour toi, ça a le potentiel de devenir nouveau grand
manga? Ouais.
Alors à ça, je vais répondre en racontant deux choses. La première chose, je fais vite, vous inquiétez pas. La première chose, c'est que c'est le truc, l'attente de Kana, c'est le manga de ce qu'ils attendent. C'est, pour eux, ça sera le manga de l'année. C'est Kana qui veut par Samurai 8. Et il est attendu pour certains comme effectivement le manga de cette année. Maintenant, la vérité sur certaines choses. Au Japon, ça a été un flop. Il a fait un flop, pas qu'il est mauvais le manga, non. C'est que les gens, comme ils n'ont rien compris au tome 1, comme ils ont complètement été perdus, le manga a fait un four. Et surtout, les gens qui l'ont lu en scan sur internet, l'ont tous dit, que ce soit en simtrad ou en scan, peu importe, tout le monde qui l'ont lu ont dit, mais en fait, mais c'est nul, c'est nul. C'est même pas qu'on comprend rien, c'est que c'est nul. La phrase qui sortait le plus, c'est que c'est nul. Alors tu t'entends dire ça, tu dis non, c'est juste que c'est pas nul, c'est juste que c'est au début, c'est pas très compréhensible. Il faut suivre. Mais effectivement, en fait, au premier abord, c'est que ça perd les gens. Et après, ils ont eu l'intelligence de sortir les deux tomes en même temps. Parce que s'ils avaient sorti qu'un seul tome, ça se vendait pas. Je le dis tout net, ça se vendait pas. Avoir sorti les deux tomes, ça va se vendre, il y aura un intérêt. Et avoir sorti ce coffret avec cette super illustration inédite qui n'existera nulle part ailleurs et qui n'existe même pas, qui a été créée pour le truc, qui montre comment le Daruma est arrivé au pied de notre héros, c'est vraiment magnifique. Donc c'est pour ça que sur le coup, oui, je pense que ça a vraiment du potentiel pour très bien marcher, parce qu'il y a quelque chose qui est très fort dedans, c'est le côté, comme on disait, c'est très organique, c'est très fort, c'est très marquant dans sa construction, dans son univers. Il y a un dessin, un style, une écriture beaucoup plus mature, aussi bien dans les personnages, dans l'humour et autres, qui fait un côté plus enfantin à ce que Naruto pouvait vivre, mais dès le départ, c'est comme si on attaquait directement avec un Shippuden dans le côté, non pas parce que Shippuden, genre, on dit, mais Shippuden, c'est de la merde à côté de Naruto. Non, c'est de la dureté des propos, de la dureté de l'histoire, et surtout que là, sur le coup, t'as l'impression que ce gamin, tu pourrais te dire, ouais, que c'est un jeune homme, c'est pas un enfant, c'est pas un gamin, c'est un jeune homme qui a vécu quelque chose de dur, et que là, il se retrouve samouraï, et qui, en tant que samouraï, va évoluer et avoir une dureté par rapport aux épreuves qui le sont. C'est comme si Naruto, dès le premier épisode, on lui disait, voilà, voici bonjour, voici l'Akatsuki avec tous ses ennemis, allez, vas-y, embraye pour combattre avec la guerre. What? Voilà, c'est ça. Et ben on est là dès le début. Et on t'annonce que c'est rien, parce que entre découpage d'astéroïdes, explosion de lune, planète coupée à moitié en deux, avec des trucs les plus imprésemblables, avec des destinées et des attaques qui déforment l'environnement, c'est extra. Donc Samurai 8 va être une très bonne série, très belle surprise. Je pense qu'elle va vraiment bien marcher. Maintenant, la chose qui va marquer le plus, c'est malheureusement ce que j'entends très souvent en magasin, c'est une personne a une idée reçue, tu ne lui enlèveras pas. Quand par exemple, et là je rage très très souvent, il y a souvent des influenceurs, pour pas dire des youtubeurs, qui font des vidéos sur des mangas. Et il y en a un plus particulier qui raconte souvent des conneries sur la plupart des mangas. Et derrière, quand les gens ils écoutent ce youtubeur, ils viennent me voir et me disent « Non mais lui, il a dit que ça c'était de la merde parce que ça ressemblait trop à ça. » Et là tu dis « Quoi ? Mais non ! Pas du tout. » Et donc, j'ai un peu peur que des gens qui l'auraient lu, qui voient, vont donner immédiatement leur avis sans penser à une analyse ou voir le plus loin. Comme tu l'as dit, c'est en deux tomes, on a comme un arc. Et là, il y a une intelligence. D'habitude, c'est toujours le premier tome qui est une mise en bouche, une mise en préparation, présentation des personnages avant de commencer au tome 2. Là, on te dit, les deux premiers tomes, c'est une aventure en soi, sur quelque chose qui vient d'arriver, c'est rapide, c'est dynamique, ça y va, tu comprends que dalle, mais c'est comme un bon film où on te dit c'est comme ça et t'as intérêt à apprivoiser les termes le plus vite possible, sinon tu vas être perdu. Et dès que tu as compris, dès que tu as les trucs en place et que ça arrive, et là, tu es lancé. On l'avait un peu dans l'esprit rave à l'époque, on l'avait un peu dans certains mangas comme Dragon Ball et compagnie. C'est pour ça qu'on va avoir, je dis pas que c'est le niveau de Dragon Ball encore une fois, mais on avait ça dans ces constructions-là. Et là, on va avoir une dynamique qui fait qu'en deux tomes, tu as un truc incroyable qui vient de tomber sur le coin de la truffe, qui vient de faire un boom. Et là, on te dit, voilà, à partir de maintenant, l'histoire va commencer. Là, tu t'es pris des pouvoirs à la hauteur d'un Naruto Shippuden ou d'un DBZ et compagnie, et on te dit, voilà, ça c'est le début. Maintenant, dis-toi que ça va se passer un peu plus loin et un peu plus gros. Tu fais quoi ? Ok. Et donc, c'est énorme. Je dirais que ça a le syndrome de Eden Zero sans le côté recyclage d'Eden Zero. Eden Zero, le problème, c'est qu'il a recyclé un peu trop de ses personnages, qui fait que les gens ont vraiment bavé dessus en disant que c'était n'importe quoi, c'était du fairy tale, regarde, c'est Natsu avec des cheveux noirs, oh là là, c'est nul, oh mon dieu, regarde, c'est Happy, c'est le chat avec des ailes, c'est complètement con. Oui, il s'appelle Happy, mais c'est pas Happy, parce que c'est robot, parce que Happy est mort, et en fait, ils le reconstruisent en robot. Oui, je fais un spoil, et alors ? Et des trucs comme ça. Et donc, c'est pour ça que sur le coup, oui, tu vas retrouver des personnages, mais bien sûr, parce que les personnages sont amoureux de leur personnage. Et là, dans Samurai Heads, on voit que c'est l'assistant qui a travaillé avec, qui reprend certains caractères design ou type de personnage qui existait avant, mais ce n'est pas Naruto, ce n'est pas des trucs comme ça. Et c'est ça qui est fort. Et avoir Kishimoto qui écrit avec un auteur qui reprend, qui a eu l'habitude de dessiner ses dessins, mais qui a son univers à lui, c'est génial. C'est pour ça que dès le début, moi, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir autre chose que Naruto. Et là, les gens qui vont dire, non, mais regarde, ça, au moins, Kishimoto, il a changé. Non, c'est pas qu'il a changé, c'est qu'il a un dessinateur qui a fait pour lui. Et ça a le potentiel d'être une des meilleures séries. Mais à côté d'un Promised Neverland et d'un atelier ou des choses comme ça, ou d'un Demon Slayer, je ne sais pas si ça va se vendre autant dès le départ, mais je pense que avec l'évolution, et si ça continue à toujours aussi bien sur du long terme, ça peut bien exploser et être une très 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 bonne série.
Et jamais vous entendrez ça de ma bouche, j'ai hâte de voir l'animé.
Parce que complètement. S'il y a un animé de ça, j'ai hâte de voir comment ça va se présenter. Parce que si ça, les premiers tomes, ça booste et ça frappe autant, c'est que ça claque tout du moins en visuel. Effectivement, des premiers tomes, ça risque d'exploser.
Voilà, donc c'était Samurai 8, la légende de Hachimaru. La légende de Hachimaru, pardon, merci à moi. De Thomas Court chez Kana. Les traductions, donc je l'aurais dit, de Miyako Slocombe, qui avait traduit notre interview de Eldo Yoshimizu. Voilà. Bon, allez, on repart dans les années 90 maintenant. Elle est jeune, là. Arrêtez. Écoutez un peu. Avec la mélodie de Jenny de Tsukasa Hojo, Seinen One Shot chez Kiun. Donc bah, ça va être rapide, hein. C'est un recueil de trois histoires courtes, trois destins pendant la Seconde Guerre mondiale. On a le première histoire, c'est aux confins du ciel, où âgé d'à peine 16 ans, Junpei Shirakawa, rejoint l'école militaire pour devenir un pilote aussi bon que son frère aîné. Mais nous sommes en 43 au Japon, et au grand désespoir des siens, l'adolescent reçoit l'ordre d'intégrer une unité de kamikazes, les fameux kamikazes. Ensuite, nous avons American Dream, c'est en 35, on est un peu en arrière là, où on a un joueur de baseball, membre de l'équipe nationale japonaise, en tournée aux États-Unis, qui rêve d'une carrière professionnelle sur le continent américain. Malheureusement, le conflit approche à grands pas. Et nous avons la mélodie de Jenny, hein, voilà, donc, du titre éponyme. Ça se passe à Nagano en 1945, quelques jours avant la fin des hostilités. Les quatre enfants s'échappent du centre où ils ont été placés, loin de Tokyo, pour se protéger des bombardements. Au beau milieu des champs, sur qui tombe sur un prisonnier américain. Magnifique histoire, évidemment, c'est la plus belle des trois, je pense en tout cas. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette édition ? Donc qui est chez Kiun, hein, avant c'était chez Tonkam, bien des années avant. Donc ça s'appelle, cette collection, Les Trésors de Hojo. Donc publié dans celui-ci en tout cas en 1995 au Japon. Donc qu'est-ce que c'est que c'est ? Donc c'est Tsukasa Hojo, comme on l'a dit, c'est l'auteur de Cat's Eyes, c'est l'auteur de City Hunter, de Angel Art. Mais à un moment donné, au beau milieu de City Hunter, il a eu une envie de faire un peu autre chose, et donc il a fait ses petites histoires, et notamment ce tome là de la mélodie de Jenny. Et pourquoi j'ai proposé ce ce manga-là particulièrement, c'est parce que, bien évidemment, en ce moment, il y a une espèce de revival autour de City Hunter, grâce notamment au film, mais pas que, hein, grâce à Rebirth qui est sorti chez Kiyun, qui, d'après Nico et d'autres personnes d'ailleurs, est vraiment bon. Vraiment bon. Nico,
de petite anecdote, je pense que je l'avais dit sur cette scène, ou je sais plus si j'avais juste dit à la boutique. Donc, la Rebirth, c'est vraiment le côté où une jeune fille rentre dans City Hunter et va interférer dans l'histoire.
Fan de City Hunter à la base, ouais.
Voilà, fan de City Hunter et qui a interféré dans l'histoire de City Hunter, mais toujours en même temps dans l'histoire. Sauf qu'à partir du tome 4, on prend enfin des histoires inédites de l'histoire du monde de Center. Donc on commence à avoir quelque chose de plus qui arrive. Donc là, vraiment, c'est vraiment pas mal. Et on voit que Ojo a encore des choses à dire et qu'il a encore tout un univers avec l'auteur avec qui il travaille. Et donc là, je pense que ça va vraiment, vraiment être intéressant.
Ah bah écoute, tu me donnes envie. Hein. Tu me donnes vraiment envie. Donc pourquoi j'ai aussi choisi ça? Parce que c'était intéressant de prendre une œuvre qui est un peu moins connue, bien évidemment, de Ojo. Toujours avec son trait, on est en 95, donc ça fait une quinzaine d'années, qui va même plus, hein, mais voilà, qui dessine. Et c'est intéressant de voir à quel niveau son dessin était arrivé et voir aussi le voir dessiner autre chose. Bah, que Kabukicho, que juste des belles femmes, ou Ryu en train de se faire prendre des coups de massue. Je voulais voir, même si il y avait des passages très sérieux, hein, quand on apprend le passé de Ryu, on se rend compte que c'est autre chose qu'un obsédé, hein, y a beaucoup plus que ça dans le personnage. Mais là, c'est intéressant, voilà, parce que Nico me dit pourquoi j'avais choisi ça, c'est parce que voilà, moi j'aimais le côté justement 100% sérieux de cette œuvre-là, ça change un peu. Ah, et Baptiste vient de se blesser, c'est fort, assis sur une... Assis, on peut quand même se blesser en se cognant la main sur une table, c'est intéressant. Donc pour moi, voilà, c'était intéressant de voir Ojo dans ce cadre-là, le voir dessiner quasiment quelque chose de 100% sérieux, et surtout le voir dessiner quelque chose de mélancolique, parce que bien évidemment, la mort, la guerre plane, est omniprésente sur les trois histoires. Et moi, ce que je voulais voir aussi, c'est un petit peu son chara-design. On sait qu'il dessine extrêmement bien les femmes. Hein. Ça a formé la libido de beaucoup de jeunes garçons, les femmes de Ojo. Et je voulais le voir un petit peu dans un autre style, voir un petit peu ce que ça donnait. Et j'ai pas été déçu. Donc quand on m'a dit, Stan, qu'est-ce que tu veux proposer ce mois-ci? Je dis, Ojo, on en parle beaucoup en ce moment. Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de la mélodie de Jenny? Ensuite, j'entends beaucoup sur ce manga-là des personnes qui vont dire « Oui, mais Ojo, quand même, c'est un peu naïf, hein, son propos sur la guerre et tout ça. » Alors, oui, si tu prends quelques petites phrases, attends voir c'est lesquelles, par exemple, parce que j'en ai là, ou à un moment donné, oui, voilà, vous avez par exemple cette phrase-là. Tout petit, ou tant que les hommes ne feront pas d'efforts pour essayer de mieux se comprendre, il y aura toujours des conflits. Oui, d'accord, ça peut paraître un peu simpliste, lu comme ça, sorti du contexte. Mais après, vous avez d'autres phrases, comme vous voyez ce pilote d'avion qui regarde le ciel avec ses avions et qui dit « Le jeune homme laissait souvent son regard se perdre dans l'azur infini du ciel. Il s'imaginait en train de parcourir ce vaste espace en toute liberté, tel un oiseau. Mais l'époque n'était pas à la rêverie. Voler, c'était s'exposer à la mort. » De nombreux pilotes avaient déjà péri dans les airs et, au couchant, l'horizon semblait comme nimbé de leur sang. Oui, il fut un temps où la jeunesse n'avait pas le droit de rêver. Voilà, on est sur quelque chose de mélancolique. Et moi, j'aime la mélancolie. J'aime pas que les cyber ninjas, cyber samouraïs. Et j'aime aussi la mélancolie. Et j'ai été complètement transporté par cette œuvre. Qu'en avez-vous pensé, Nico?
Pour moi, c'est simple, Tsukasa Ojo est... Je pense, à mon goût, le meilleur dessinateur que je connaisse. Il a atteint des sommets de dessin, de style, dans le regard, la construction de ses planches, dans l'expression qu'il émane des traits du visage, aussi bien des rides que des sourires, que de ses pommettes. Il a atteint un tel dessin, et pour moi, en plus, il a créé les plus belles jaquettes. À un moment, il y avait une jaquette de City Hunter. Quand je l'ai vue la première fois, j'ai cru que c'était une photo. C'était Kaori et Ryu, et je l'ai regardé pendant des heures, et pour moi, c'est toujours dans ma tête, j'ai toujours l'impression de voir une photo quand je la vois. C'est pour ça que Tsukasa Ojo, pour moi, est le meilleur dessinateur que je connaisse. Pourtant, je sais que j'ai des dessinateurs que j'adore, mais pour moi, celui-ci a atteint un tel niveau de aussi bien réalisme que burlesque, que il sait faire ce mélange entre les deux qui est tellement incroyable. Et en plus, mes larmes de rire rire. Je crois que je ne les ai jamais eu autant que sur un City Hunter. Pour moi, Ojo, c'est, il est dans mon cœur, dans le panthéon. Il est tout en haut, il est à côté de Dragon Ball.
Et rappelons qu'à la base, le mec, il ne voulait même pas être plus que ça mangaka, que c'est son futur grand Tanto qui a inscrit un concours auquel il est arrivé deuxième avec voilà, une histoire de 4 size, enfin, ce qui va lancer 4 size. Et à la base, le mec voilà, ne voulait pas du tout devenir mangaka.
Et c'est ça que j'adore, c'est que ce mec, ouais, on verra. Et en fait, final, voilà, c'est un dieu, ce mec. Voilà, donc c'est pour ça que cette œuvre, je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Quand je t'ai demandé pourquoi, parce que je me suis dit, il y a d'autres œuvres qui sont dans l'esprit au jeu, ce qu'on avait. Mais tu m'as pris un contre-pied et ça m'a fait vraiment beaucoup penser quand, avec justement, avec Urusei Yatsura ou les dessins animés de notre enfance, avec le côté, ce qu'on nous montre aussi de côté qu'on connaît classique, mais que chaque auteur classique a une œuvre qui nous marque, qui est touchante, comme par exemple, encore une fois, avec Rumiko Takahashi, avec le chien de mon patron, le tragique de paix et compagnie. Là, on est avec la mélodie de Jenny. On est dans des œuvres qui sont plus dures, plus noires, plus fortes de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et c'est vrai que l'histoire avec l'américain, elle est tellement forte, elle est tellement touchante. J'admets que, ouais. Après, je passais pas, je me dis, ouais, non, si, c'est vrai que celle-là, elle m'avait vraiment beaucoup touché. Il y a beaucoup de choses. Et dire qu'il est simpliste, non, j'irai pas ça. Parce qu'il a. Il a, au contraire, il aime utiliser des termes simples pour faire réfléchir les gens par rapport à certaines choses. Et des fois, juste avec des choses simples, on se remet en question en disant que non, oui, c'est vrai que des fois, mettre des mots simples sur quelque chose, ça fait réfléchir et se dire que ouais, on est peut-être on a peut-être un peu poussé ou ça permet de réfléchir à autre chose.
Ouais, je suis d'accord. Et pourquoi j'ai choisi cette œuvre, peut-être de façon inconsciente, parce que je vous l'avoue franchement, je me le suis pas dit au moment de le proposer, mais en préparant le podcast, je me suis dit mais c'est ça. C'est vrai qu'on est tellement, on n'est pas dans une seconde guerre, une troisième guerre mondiale, mais c'est vrai qu'on est tellement dans une société en ce moment en France où va très très mal, hein, où on est en train de monter les uns contre les autres, qu'au final, on se rend compte que on a beau faire tous les discours qu'on veut, tous les débats qu'on veut, au final, je pense que la façon de changer, même si elle peut paraître simpliste, de changer les mentalités, c'est en fait de voir l'autre, celui sur qui on se fait des images, un petit peu voilà, échanger, rien discuter. Et je pense que ça peut changer énormément de choses. Ça ne va pas changer nos politiques, hein, parce qu'ils sont là pour faire des carrières, ils ne sont pas là pour faire que le peuple français aille bien. Mais voilà, je pense que nous, à notre simple niveau, c'est mon discours politique, je vais me proposer. Pour les élections, je suis là. Mais c'est aller vers l'autre, discuter. Et c'est vrai que cette histoire avec l'Américain qui tombe au milieu de ces petits Japonais, hein, qui sont en guerre contre son pays, voilà, bah, c'est comme ça que ça change la perception qu'on peut avoir l'un de l'autre, quoi.
Ben, tu vois la phrase que tu as lue, qui était un peu simpliste quand tu disais, ben, ça pourrait s'adresser même encore aujourd'hui pour nous, pour tout ça, pour changer un peu la façon de penser, pour pouvoir aller mieux. Parce que comme tu dis, c'est pas les politiciens qui vont nous aider, donc c'est nous qui allons nous aider. Donc c'est pour ça que, bon, moi je serais un plus extrémiste que toi par rapport à ça, mais ça c'est un autre débat, parce que moi, il faudrait aussi que je me présente comme maire de Nancy, où on va se marrer. Parce que vous êtes beaucoup à me demander d'être maire de Nancy, c'est ça qui serait marrant. Bref, mais ouais, c'est une œuvre qui est extrêmement majeure, qui est extrêmement forte, et c'est pour ça que j'adore ce qu'il avait fait avec Rash, avec le cadeau de l'ange, la mélodie de Jenny, etc., qui était la mélodie de Jenny, etc., qui était vraiment très très forte et qui amène une autre vision de ce qu'on pouvait avoir de l'auteur, aussi bien de City Hunter et compagnie, qui justement amène à une autre vision de ce que peut faire un auteur, et c'est très très fort. On se rend compte que son style, son dessin, quand on relit City Hunter derrière, quand on commence à voir des trucs sérieux, on pense à d'autres choses plus profondes et on prend la légèreté de Ryo Saeba comme une légèreté, mais que pareil, il peut cacher des choses très dures, comme tu disais, quand on commence à découvrir le passé et compagnie. Donc c'est un auteur qui a énormément de choses à dire et qui est très fort et très intelligent. Donc je vous conseille vraiment, et surtout je suis vraiment heureux que Kiyun ait repris cette collection, parce que j'adore, et l'avoir ressorti, parce que je trouve que c'était une perte de ne pas les avoir. Et enfin, ça revient et ça mérite tellement d'être mis en avant. Je suis fan, j'adore.
Et nous avons Inès qui nous quitte. Au revoir Inès. Au revoir. Elle va travailler, mais il faut que ça travaille un peu quand même. Baptiste, mets-toi assis, on a besoin de toi, Baptiste.
Il faut qu'elle travaille pour entretenir son homme.
C'est ça. Baptiste. Baptiste, alors vas-y. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ?
J'ai adoré.
Ah.
Tout simplement.
D'accord.
J'aime beaucoup déjà l'arrangement des histoires dans ce manga, dans l'édition. au début, on pourrait peut-être penser qu'il n'y a pas vraiment de rapport entre les trois. Mais à la fin, surtout entre la première et la deuxième, avec tout ce qui est histoire du premier personnage qui, du coup, devient un aviateur kamikaze.
Ouais.
Et du coup, ça pose la question encore plus, qui est une question qui est répondue un peu dans la deuxième histoire, de qu'est-ce qu'il faut faire pour la patrie. Quel est l'attachement qu'on a par rapport à notre nation dans un temps de guerre. Et du coup, cette question-là de l'honneur d'un soldat, de son attachement, de son amour envers son pays, est répondu avec l'attachement du coup de ses enfants japonais avec ce soldat américain qui partagent du coup le même but et qui vont lier vraiment une belle relation, une relation qui m'a beaucoup touché.
C'est bien, ça fait tous le même ressenti.
Et la troisième histoire du coup...
Un peu en retrait sur le baseballer.
En retrait parce que la deuxième est tellement bien développée, tellement touchante, tellement poignante que du coup la troisième, le fait de repartir pour une troisième histoire, il y a un pic qui est atteint avec la deuxième histoire et le fait de repartir après, entre guillemets, de zéro, pas vraiment parce qu'on sait à peu près à quoi s'attendre, c'est un peu difficile après de la lire.
Ouais.
Mais voilà, en tout cas, l'histoire est très belle. Le trait d'Ojo, bien sûr, on le présente plus monstrueux. Il y a un talent qu'il a dans la composition de pages, en particulier dans la première histoire où il alterne du coup le visage des soldats avec les avions en fond. Il y a une magnifique double page avec les deux avions qui survolent la maison, avec juste le visage du personnage de Taka, qui est magnifique. Vraiment, pour ça, il est au sommet de son art dans ce manga. Et voilà, c'est une très belle lecture que je recommande à tous ceux qui peuvent s'y intéresser.
Ah, puis c'est un tome. Hein, voilà,
c'est ça.
Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça on va enchaîner rapidement. Hein, bah, de toute façon, voilà, on a parlé aussi de Ojo, bien évidemment, on a parlé de l'œuvre. Mais ce qui est intéressant, pourquoi j'ai choisi de parler de la mélodie de Jenny. Et maintenant, on va parler de Old West, de Chaiki Maeda, Seinen One Shot chez Omake Books. Parce qu'en fait, c'est aussi un recueil d'histoires courtes, et c'est pour montrer, attention, je vais être méchant, parce qu'en plus ce manga donc est vendu avec un petit bandeau qui dit prix du meilleur premier manga, prix Shogakukan, et après derrière, attends, je vais en parler comme ça. Voilà comment Omake Books, voilà, vous avez vu comment avec Ojo, voilà, on peut faire un recueil d'histoires courtes et réussir à faire des ponts thématiques, historique, enfin tout ce que vous voulez, entre vos différentes histoires, réussir vraiment un one-shot à l'histoire courte. Et là, vous avez Old West qui arrive, qui a eu un prix, voilà, un prix du premier manga, certes, mais il y a quand même un prix, Shogakukan. Et voilà comment le vend Omake Books. Un one-shot épique, humaniste, spectaculaire, contenant 5 histoires complètes dessinées dans un style graphique mature et réaliste qui se déroule à l'époque des pionniers au sein d'un Far West aussi authentique qu'impitoyable. C'est un peu long, mais écoutez bien jusqu'au bout. Après, pourquoi je vous lis ça, c'est parce qu'après, je vais, entre guillemets, pas déconstruire, mais voilà, en tout cas, moi, ce que j'en ai pensé, on dira tout ce qu'on en a pensé, mais voilà. La talentueuse mangaka Chiaki Maeda a remporté avec Old West, on l'a dit, le 75e concours Shogakukan du meilleur premier manga. Old West a été sélectionné dans le top 10 des meilleures nouveautés de 2018. Donc regardez un petit peu, c'est-à-dire au Japon. Hein. Voilà comment il est vendu. Troisième chose, 228 pages d'aventures et de rencontres insolites dessinées dans un style graphique mature, rappelant Jiro Taniguchi. Attention à ce que vous dites. Rappelant Jiro Taniguchi et reproduisant avec élégance les paysages grandioses d'une nature sauvage. Ok. 5 histoires complètes qui abordent de façon adulte et réaliste les différents aspects de la vie des pionniers. Ok. Et on arrive à la fin. Une ambiance qui rappelle le jeu vidéo Red Dead Redemption 2, le manga Peacemaker et les meilleurs westerns de l'histoire du cinéma. Loin des clichés, duels, violences gratuites, etc., Old West dépeint de façon humaine les protagonistes avec leurs rêves, leurs espoirs, leurs illusions, leurs pardons, etc. Un manga rare, il existe peu de mangas qui traitent du Far West. Ouh, tout ça s'écrit derrière. Vous êtes encore là, les auditeurs ? Allô ? Oui, oui. Ils sont encore là, mes collègues, en tout cas. C'est déjà bien. J'espère qu'on nous a suivis. Alors voilà, moi, ce que j'en ai à dire, ça va être très rapide. Je vous laisserai la parole. Je trouve que c'est une œuvre d'une... Alors pourtant, le western, comme vous le savez, j'ai fait des études de cinéma. Avant d'arriver à la fac de cinéma, c'était un genre que je ne pensais ne pas aimer du tout. Et comme, je suis un peu comme ça, je voulais un petit peu connaître un petit peu des genres, voilà, que je n'avais pas encore approfondi, je me suis dit, je vais me bouffer plein de westerns. Du coup, à la fête de cinéma, j'en ai mangé des Anthony Mann, des Howard Hawks, des John Ford, enfin tout ce que vous pouvez. Donc des westerns, j'en ai quand même bouffé. Je ne vais pas dire que je suis un expert, mais j'en ai bouffé énormément des westerns. J'ai fait Red Dead Redemption 1, j'ai fait Red Dead Redemption 2, qui m'est tombé des mains à la moitié à peu près du jeu, malheureusement. Voilà. Pourtant, j'étais à Red Dead Redemption 1 est un de mes jeux préférés, pourtant. Bon, peut-être qu'il faut que je continue. On m'a dit là où j'en suis, il faut que je continue parce que moi ça part vers autre chose. Je suis à Nouvelle-Saint-Denis apparemment. Voilà. Ah, je vois Baptiste qui conforte un petit peu ce qu'on a pu me dire sur le sujet. Donc bref, pour vous dire que pas pour me donner une crédibilité, mais c'est pour vous dire voilà, niveau western, je pense connaître un petit peu le truc, un petit peu. J'ai pas écrit de thèse, mais quand même. Et quand on me dit que c'est que c'est loin d'être banal, que ça va vraiment en profondeur dans les sujets qui constituent le Far West, la conquête de l'Ouest, que ça se compare à un Red Dead Redemption notamment, moi je pense, il parle du 2 mais on peut parler du 1 aussi, ça me fait extrêmement mal. Moi je trouve qu'il se contente de reprendre les grands thèmes, c'est vrai parce que chaque chapitre il prend des grands thèmes, mais il n'y a rien de plus au final que ce qu'on, ça nous apporte, rien de plus, ni au niveau du thème qu'il aborde, ni au niveau de l'angle par lequel il va aborder ce thème. Pour moi, il n'y a rien. C'est très très loin aussi d'un Red Dead Redemption avec son pouvoir évocateur et son traitement de la rédemption. On ne parle même pas des décors, bien évidemment, bon, c'est un jeu vidéo, vous allez me dire, mais quand même, hein, la DA de Red Dead est folle. Pour moi, on est à des kilomètres vers l'ouest des dessins d'Atane Gucci. Attends, les gars, faites gaffe, c'est pas... C'est pour un premier manga, ouais, c'est pas mal, mais on est quand même loin d'Atane Gucci. Moi, je trouve qu'on se rapproche plus... Certains vont rigoler, mais d'un trait du dessinateur de La Tête des Titans. Il y a des moments, là, par exemple, quand je vois la tête du Gugus, là, franchement, regardez, pour moi, c'est La Tête des Titans. Vous voyez ? Alors, moi, je ne déteste pas, hein. Je ne suis pas comme ceux qui clashent La Tête des Titans, problème de proportion, etc. Moi, j'aime beaucoup le manga, La Tête des Titans, même au niveau du dessin. Certes, il y a des imperfections, mais pour moi, voilà, de loin de le bâcher comme certains le font. Mais voilà, si on veut comparer, éviter Taniguchi, qui est un trait extrêmement réaliste, hein, qui se rapproche d'ailleurs plus d'un Hojo, et comparez-le à un dessinateur contemporain, qui avec un trait, entre guillemets, débutant, j'aime pas dire ça parce que ça paraît pédant, mais voilà, daté des Titans par exemple. Donc si vous cherchez un manga western où il y a des codes, mais on est dans une certaine évolution du western, où on glisse vers la guerre de gang, moi je conseillerais Green Blood, voilà, où on est plus, effectivement, on se rapproche plus de, pour ceux qui ont vu le film de Gangs of New York de Scorsese, on est d'accord, mais quand même, il y a quand même ce code vestimentaire et de duel qu'il y a dans le western. Certes, le duel, comme ils le disent, c'est un côté fantasmé du western, mais ça a existé, et c'est quand même ce qu'on a quelque part envie de lire, ou je dirais même aller lire Hans Spedler. Et pourquoi Hans Spedler? Oui, mais bon, c'est une histoire de vampire, de machin, etc. Enfin, des trucs, en tout cas, complètement surréalistes. Oui, mais les Japonais, ce qu'ils savent faire, c'est reprendre une mythologie, reprendre une topologie et la translater, si je puis dire, dans une autre réalité. Et ça, ils le font très très bien. Là, il n'y a rien qu'on n'ait pas déjà vu ailleurs. Pour moi, je me suis extrêmement... je trouve ce manga extrêmement ennuyeux, en fait. Comme ce que j'avais... Et c'est marrant, c'est l'image que j'avais des westerns avant d'en garder plein. Pour moi, c'était un genre de film qui était ennuyeux. Ennuyant. Oui. Voilà. Et bon, bah écoutez, voilà, j'ai trouvé ce manga. Malheureusement, hein, parce que... Mickey Books... Comment il s'appelle, le directeur de l'éditorial, qui est super bien, fait un super travail, très très bon en japonais, traducteur aussi, Florent Gorge, voilà, qui est directeur des trucs, il fait un super boulot avec Omake Books, j'avais vraiment envie, le personnage, j'avais vraiment envie de lire, au final on a lu ça à la place, parce qu'on a vu la couve, on a vu le terme, on s'est dit ouais, western, génial, on va le faire, final de déception. Baptiste.
Alors, j'ai pas lu le résumé d'Omake Books, donc du coup j'y suis allé sans grandes attentes. J'ai lu ça à la fin. J'ai lu le bandeau à
Old
la
West,
fin.
C'est un peu une rencontre entre Jiro Taniguchi et Red Dead.
Je l'ai lu après avoir fini le manga.
D'accord, bah c'est bien.
Donc j'ai pas. Donc du coup, j'y suis allé. J'ai quand même passé un bon moment parce que le western, c'est quand même un genre que j'affectionne particulièrement, notamment Les Portes du Paradis de Chimino, qui est un
des films préférés. Oui, d'accord, oui.
Donc
qui a ruiné.
Qui a ruiné.
Cinéma, n'oublions pas.
Une étude d'artiste.
Paix à son âme.
Voilà. Ciao l'artiste. Donc du coup, j'ai quand même apprécié parce que, comme je dis, le western, c'est un genre qui me plaît beaucoup dans son esthétique.
Pareil.
Donc du coup, là, on retrouve, comme tu dis, du coup, du classique de chez classique.
C'est pas plus classique que du John Ford.
Voilà, c'est pas quelque chose qui va... Enfin, ça révolutionne pas le western. Moi, de toute façon, le seul manga qui se rapproche un peu du western que j'ai pu lire, c'était la partie de Jojo's Bizarre Adventure, Steel Ball Run.
Oh là là,
Donc là, on est quand même pareil. Tu disais les Japonais qui se réapproprient
des codes.
Là, c'est totalement là-dedans avec ce qu'Araki a pu faire. Donc là, oui, c'est vrai que c'est classique. Après, j'ai pas passé un mauvais moment parce que ça reste. C'est peut-être un peu bateau parfois, notamment la deuxième histoire avec un mec qui explique son plan pendant 20 minutes devant le mec qui est mourant. Il lui dit de toute façon, t'auras pas le cran de tirer. Spoiler, il tire. Étonnamment.
Une vente en moins pour Nico.
Donc du coup, ouais, il y a des trucs qui sont bateaux. L'Indien qui est amoureux de la nature, qui explique à l'homme blanc qui chasse pas de la bonne manière.
C'est Pocahontas version Brokeback Mountain.
Oui, voilà, donc, c'est ça. Il y a une petite tension entre l'Indien et l'homme blanc. Donc du coup,
ouais, j'ai pas vu ça comme ça, mais pourquoi pas, ouais, d'accord, ok.
Donc du coup, ouais, le joueur de poker qui dit, ah finalement, je t'avais dit que je reviendrais, mais je peux pas, je suis trop, j'aime ce jeu. Voilà, il y a rien de révolutionnaire, mais je trouve pas ça raté pour autant. C'est, faudrait pas que ce manga ait les prétentions comme Akebook, je l'ai prêté en fait.
C'est ça, je suis d'accord.
C'est que je comprends qu'au niveau marketing, c'est peut-être dur de vendre une œuvre en one shot, un peu atypique, niveau western, on n'a pas l'habitude de voir ça en manga, donc du coup. On va à fond sur la com, ce manga remporte ci, on compare ça avec ça. La comparaison avec Taniguchi, elle tiendrait peut-être plus du scénario, par exemple avec ce qu'on avait pu lire, Tokyo Killers, il y a quelques mois, avec l'histoire des, avec l'histoire des tueurs à gages, on suit leur vie, une petite chronique, tout ça. Pas au niveau du dessin, clairement pas. On est très loin de la finesse de Taniguchi. Donc voilà, c'est la com qui est un peu raté le coche là-dessus.
Ouais, je suis d'accord.
Mais bon... Si ça peut intéresser certains, je pense que les amoureux de western classiques pourront s'y retrouver, mais faut pas s'attendre non plus à une révolution, c'est clairement pas ce que c'est.
Oh, puis dans la franco-belge, je trouve des trucs bien plus intéressants.
Oui, exactement.
Nico, pour terminer.
Alors, comment je pourrais expliquer ça ? Déjà, je pense que si tu es lecteur de BD et que tu as envie de te dire « Hey, j'ai lu un manga et finalement les mangas sont pas mal, lis ça. » Voilà. Concrètement, tu es un lecteur de BD, c'est fait en partie pour toi. Par contre, si tu as envie de te lire un bon truc de western à la Taniguchi extraordinaire, lis Le Lémier de chez, comment ça s'appelle, de chez Saka, qui est tout simplement fantastique, extraordinaire, en deux tomes. C'est totalement mais incroyable. Si tu as envie d'une ambiance très, ce que c'est pas sur le western, mais sur le côté un peu américain, le côté, ça donne cette ambiance western avec le côté un peu cowboy, sans être cowboy, parce que ça se passe vraiment dans la forêt avec les déforestiers et compagnie. C'est pour toi. Alors là, pause All West, je suis désolé. Tu passes un moment sympa, ça, c'est vrai. Mais moi, c'est vrai que sur le coup, quand je l'ai pris, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs histoires. Donc je me suis dit, je vais l'ouvrir. En fait, quand je l'ai travaillé à l'époque, c'est vrai que quand on me l'avait dit, on me l'a peut-être dit, mais j'ai complètement zappé. Je pense peut-être certainement que Maropré l'a dit. Il y a des chances vu que Steph, elle est douée là-dessus. Donc je me doute qu'elle a fait son taf et qu'elle me l'a dit. Mais je l'ai complètement zappé ou certainement je sais pas pourquoi. Peut-être qu'on n'a pas parlé. Bref, quand je l'ai pris, je suis parti avec. Pour moi, voilà, c'est un one shot à lire. Et quand j'ai vu que c'était plein de petites histoires, eh ben j'avais ce goût de bâclé, de pas abouti, parce qu'on te met des petits morceaux de situation, mais moi, c'est vrai qu'on m'aurait vendu un truc sur Far West, avec la découverte, avec différents personnages, avec des choses, mais j'aurais adoré. J'aime bien les films de western, j'adore ça, il y a des trucs fantasmés, bien sûr, tous les trucs qu'on a pu voir, mais bien sûr. Mais celui-ci, la première histoire, me donnait envie. J'avais l'impression que par la suite, on allait voir ce gamin grandir, avec ce qui allait se passer plus tard, avec justement des gangsters, des trucs, des joueurs de poker, tout ça. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant qu'on allait pouvoir aller voir. Et là, sur le coup, je me suis dit, ouais, bon, ouais. Après, quand je l'ai fini, j'ai tourné la page, je fais, ok, on a, ouais, donc non, Red Dead Redemption, je le cherche encore, et Taniguchi, pas vraiment. On s'approcherait beaucoup, on a un style de l'auteur de Lovecraft qu'il a fait avec ses recueils. Bah, moi, ouais, on me redit ça, je redis, ouais, graphiquement, c'est très proche de ça, c'est beau, c'est bien, je dis pas que c'est moche, hein. Je dis, mais c'est clair que ça s'approche plus de Lovecraft de chez Kyun que le reste. Et en termes d'histoire, de profondeur, tu veux un truc, ouais, voilà. À un moment, il y a une histoire où le joueur de poker, il a sa bête noire qui sort, son démon du jeu qui est là. Donc, tu vois le truc, tu dis, ouais, bon, bah, c'est pas du tout ce que je lis. Je dis, ouais. Et là, quand j'ai lu effectivement le résumé là après, parce que j'ai regardé un peu, cherché dessus. J'ai dit, c'est une blague, c'est ça. Que en plus, déjà, heureusement, ils l'ont pas collé derrière le livre. Derrière le livre, il y a zéro mot. Il y a que dalle, il n'y a pas de résumé, il n'y a que dalle. Tout un truc sur le western, on dit, tiens, c'est un western, lis. Donc, tu le lis. Mais là, entre. Voilà, je suis désolé, mais encore une fois, joue avec des prix pour dire, hey, meilleur prix démarrage, vas-y, prends. Alors, je le redis, je le dis, je continuerai à le dire, je le crierai sur tous les toits. C'est pas parce que ça fait un succès ou que ça marche bien sur certains trucs au Japon que ça va marcher chez nous et qu'il faut en jouer. Vous voyez, par exemple, Gintama, c'est l'un des plus grands trucs, c'est le truc qui amène la lecture du Shonen Jump dès le départ et compagnie, mais c'est un four, ça se vend pas du tout en France. Je pourrais vous en citer tellement des trucs qui sont extraordinaires au Japon, qui marchent à fond, mais chez nous, ça ne marche pas. Et ben voilà, arrêtez de nous vendre des premiers prix de machin, de billets, de trucs muches. Ça ne sert à rien, ça n'apporte rien. C'est pas parce que c'est un premier. Et surtout face à qui, face à quoi, dans quel truc. Moi, je vois le premier manga, c'est quoi? C'est Turbu les Bains au Japon, qui a fait un concours avec des élèves et une personne anonyme qui a s'amené et que tout le monde dit ouais, c'est génial, il a reçu le premier prix, donc il a sorti son bouquin, c'est le premier prix. Non, on sait pas dans quelles conditions, qui, quoi, comment, quoi, qu'est-ce, et quel prix, quel est le nom du prix. On n'en sait rien. Donc arrêtez avec les prix, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, oui, dites que c'est un bon manga solo western qui vous fait découvrir des petites choses, qui vous fait un peu voyager, mais nous dire à la Taniguchi au Red Dead, t'as l'impression qu'ils veulent taper dans tout, ils veulent taper aussi bien dans le petit jeune geek qui joue à la console que à son père qui est Taniguchi, ils disent il y en a bien un des deux qui va aimer. Donc non, je suis désolé, c'est faire le grand écart pour essayer de me toucher un maximum de personnes, je trouve ça, non, c'est dommage. Et pourtant c'est dommage parce que Omake sort des trucs assez sympas et je suis assez fan de ce que fait Omake. Je les vends depuis le début dans le magasin, je les pousse, donc oui, mais ça, sur le coup, après l'avoir terminé, eh ben, j'avais ce goût de saveur inachevée. C'est pas autant qu'un Urusei Yatsura, parce que Urusei Yatsura, c'était une déception, mais alors là c'est un goût de, vraiment un goût de pas abouti. Et je trouve ça dommage, parce qu'il y avait le limier, il y a plein de trucs, il y a, comme tu dis, il y a Green Blood, etc., il y a plein de trucs. Ça, c'était sympa. On va te sortir de tout. On va te sortir aussi bien Docteur Quin. On va te sortir du Danse avec les loups. On va te sortir plein de trucs à l'intérieur. Mes versions, pff, oh là là, encore. Ben, moi, j'ai envie de dire, c'est même, c'est limite cliché. Le joueur, ben, j'ai Maverick. On a le truc avec les Indiens. J'ai Danse avec les loups. J'ai le truc avec le père. Tous les films qui sont sortis, c'est que des clichés. Donc c'est pour ça que sur le coup, j'étais pas pris. La première histoire, c'était vraiment celle qui m'a plu le plus. Et on m'aurait tenu avec ça, avec cette épopée sauvage où on va découvrir des trucs, on part à travers une grande balade, à travers le Far West. Mais punaise, mais ouais, ça j'aurais kiffé, j'aurais vraiment aimé partir avec lui sur son cheval. Comme quand je joue à Red Dead, limite tu vas plus prendre ton temps à aller chasser pour qu'aller dans les trucs. Tu prends plus de temps à ça. Et c'est génial. Et là, et des rencontres qu'on aurait pu faire, des bandits, des de tout, l'armée, on aurait pu voir tout ce qui était par rapport au premier chemin de fer et tout ça. Mais on aurait pu avoir tellement de trucs. Et ben je me suis dit, ouais, bon, sympa, mais voilà. Donc j'ai passé un moment sympathique, mais ça ne m'a pas transcendé. Et non, je préfère effectivement Taniguchi ou jouer à Red Dead. Donc sur le coup, un mélange des deux. Ou bien c'est le fils désavoué de ses auteurs, mais très sincèrement, je ne retrouve pas du tout ni l'un ni l'autre dedans. Et c'est ça qui est un peu dommage.
Bon, bah écoutez, on se réunit encore une fois. Disons, c'est le podcast de l'entente cordiale, dis donc. La triple entente.
C'est normal, il n'y a pas notre hater de Kino qui est avec nous.
Oui, Kino, tu nous manques. Reviens-nous vite, s'il te plaît. Voilà, donc c'était Old West. C'est un premier manga de Chaiki Maeda, Seinen One Shot, chez Omake Books. Et c'est ainsi que nous avons terminé nos débats du mois. Et comme je le dis comme j'ai dit en début de podcast aussi, vous pouvez nous retrouver en vidéo maintenant pour nos instants pilules, donc Lecture en cours et Totally Crazy, en vidéo sur notre IGTV. Et c'est ainsi que le rideau du Haruka Full Manga Café se referme, en espérant vous retrouver la semaine prochaine sur Instagram, YouTube et pour plus de manga, de manhwa global manga, mais cette fois en vidéo, comme je vous l'ai dit. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de nous écouter et à vous abonner, bien sûr, sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Spotify, Magellan, YouTube, ce que vous voulez. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos critiques et recommandations sur le Facebook de Harukia ou le Twitter aussi, mais surtout via le mail harukiacafe@gmail.com. Et pour terminer, les remerciements. Kensington Café, 12 rue de la Faïencerie à Nancy. Atou Manga, 8 cours des arts à Nancy aussi. Et Ocho Production pour la mise à disposition technique. www.ochoprod.com.
Alors, je voulais vous dire un petit truc. Quand Stan vient pour me demander pour faire des vidéos, pour présenter des trucs, je ne sais jamais vraiment quoi prendre pour présenter. Est-ce que je présenterai le magasin entier ? Donc si vous-même, vous avez envie que je fasse un peu de propagande de certains mangas que vous avez envie, dites-les moi et je les présenterai sous ces petites vidéos pour pouvoir justement faire un peu de promo et surtout en parler en bien ou en mal bien sûr. Ça me fera autant plaisir d'être un peu hater de temps en temps.
Ça commence par les bouquins que Yves, t'as des Yves France qui avait un de nos gagnants d'ailleurs, t'a proposé, n'est-ce pas Nico ?
Ouais, et d'ailleurs il faudra que je récupère la liste, que je me rappelle même plus où elle est et il faudra que je fasse. Donc Yves, je pense bien à toi.
Ok, allez les amis, on vous dit au mois prochain.
Au mois prochain.
Au mois prochain.
Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir ?